Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 18 octobre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 19 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons, résistons.
Voilà, poil au menton. Je suis un petit peu en retard, non ?
Non, non.
Mais si, parce que je suis allé m'acheter une boisson fraîche, et je dois dire aux auditeurs, tiens, je vais cafeter.
C'est la pendule, arrête.
Que la pendule du bureau ne fonctionne plus. Et devant moi, j'avais... Quelle heure il est, la pendule ?
4h20 ? Non, non, 6h20.
6h20, voilà. Donc en réalité, dans ma tête, j'ai 20 minutes d'avance. Et dans votre tête, à vous, chers auditeurs, j'ai 5 minutes de retard, donc on va passer 20 minutes de musique pour que je me
rende.
Non ? Bon. Alors, ce soir, le programme. Je reçois Nicolas Bonnal. Bonsoir, Nicolas Bonnal.
Pour ce qu'il en reste.
Pour ce qu'il en reste.
Ce qu'il en demeure.
Ensuite, je recevrai Bruno Gollnisch et... Je le préviens tout de suite que on fera une expérience, on lui fera poser des questions par deux étudiants. C'est ça, messieurs, vous êtes des étudiants? Alors, qui s'appellent Pierre Deniaud et Gonzague Georges, et non pas Georges Gonzague. Ensuite, je recevrai, est-ce qu'il appelle là? Non, c'est pas lui. Non, bon, c'est peut-être lui. Il y a quelqu'un qui va appeler, quelqu'un que je voudrais vous présenter. Et puis ensuite, nous recevons Jean-Marc Savary, qui est écrivain et éditeur. Bertrand Aquin, que j'ai déjà reçu, qui est avec un livre qui a eu un gros succès et qui a soulevé pas mal de polémiques aussi, qui était dans le titre « Ce soir, l'Apocalypse, il était temps ». Je recevrai également Régis, c'est un prénom imprononçable, ça.
C'est un très joli prénom.
Oui, mais comment vous pouvez le prononcer ? Quand il vous manque des dents, comment vous faites ? Régis Germain, en plus, qui est héraldiste, créateur du musée du blason. Et alors, c'est un secret que vous ne répéterez pas à plus de 20 personnes, il est également l'inventeur du pastis bleu. Curieux, ça, hein ?
C'est le bleu de méthylène, non ?
Ah ben je lui demandais comment. Non, non, il a pas ce problème. Il fait du pastis bleu, qui c'est magnifique, c'est beau comme tout. Et puis, ben voilà, ça nous fera la rue Michel. À propos de la rue Michel, je dois signaler que samedi 21 octobre, c'est-à-dire après-demain.
Oui, oui.
Le docteur Dor fait quoi ?
Une manifestation.
Bravo, Victoria. Une manifestation. Place Saint-Michel à 14h30.
Place Saint-Michel.
Voilà. Place Saint-Michel, 14h30, 21h10. Et
je peux dire une chose, Serge, sur le docteur
oui,
Dor ?
Oui, bien sûr.
Une fois,
c'est Nicolas qui parle.
Une fois, je lui ai parlé hors antenne ici à Radio Courtoisie, et je lui ai dit pourquoi autant de résistance sur la loi Veil en 74. Et il me dit on était encore un pays chrétien. Et moi, j'étais pas tellement d'accord à cause des médias. Et en fait, en 1974, les chiffres sont sortis hier, il y avait 4% d'enfants qui naissaient hors mariage. Aujourd'hui, il y en a 52%. Et voilà ce qui s'est passé entre 70 et l'an 2000. Je ne sais pas si on va parler tout à l'heure avec ton ami écrivain là de l'histoire de l'Apocalypse, mais moi, ma théorie, je l'ai écrit dans le Libre Journal et dans les Codes Vérités, l'Apocalypse a déjà eu lieu. Et il ne reste plus rien. Mais en tout cas, c'est ce que me disait le docteur Dor, il avait bien raison à propos de ce qui s'est passé, des grands enjeux des années 70, qu'on a un peu oublié depuis.
Mais on me demande souvent pourquoi j'attache une telle importance à la question de l'avortement. Non, en général, d'ailleurs, que c'est pas l'affaire des hommes, ce qui est une ânerie, parce que les enfants sont à deux, et bien évidemment, les hommes ont leur responsabilité. Mais c'est parce que je pense réellement que c'est un sacrifice humain. Mmh. C'est un sacrifice humain. Et évidemment, quand on en arrive à un stade, à une telle quantité, tout à l'heure j'entendais qu'on disait sur cette, à ce micro, ce que je suis bien obligé à mon grand regret d'appeler des âneries sur l'Inquisition et les sorcières brûlées. Parce que tout ça est du bidon, c'est de la propagande antichrétienne, pas autre chose. Il suffit de lire les bouquins de Dumont, par exemple, pour savoir que ce qu'on dit de l'Inquisition est idiot, et ce qu'on dit des prétendus bûchers de sorcières qui auraient tué des milliers de femmes, ça tient pas debout une seule seconde. Mais quand bien même, pendant les 100 ans qu'ont duré les persécutions, ou les prétendues persécutions contre les sorcières, on n'a pas tué le millième des enfants qu'on sacrifie chaque année en France. Je dis bien en France. Donc, il y a plus de... Le docteur Dor me donnait le chiffre récemment, je crois que c'est plus de 250 000 enfants par an en France qui sont sacrifiés. C'est quand même... Alors, on nous fait tout un cinéma sur les sacrifices humains à Carthage, par exemple, les sacrifices à Baal. Mais je suis certain que les Carthaginois, ils sacrifiaient pas le 10 millième de ce que nous, on sacrifie à Satan avec l'avortement. C'est tout, c'est ma conviction, je vois pas pourquoi je la proclamerais pas. Les autres proclament d'ailleurs sur le chemin des manifestations organisées par le docteur Dor, il y a des gens qui crient « Vive Satan !» Ils savent très bien ce qu'ils font quand même. C'est pas par hasard.
Vous voulez bien rappeler, samedi 21 octobre.
Samedi 21 octobre, manifestation du docteur Dor, place Saint-Michel, sous la protection de l'archange, à 14h30. Vous savez que maintenant, il faut prononcer lentement les adresses.
Ben oui.
Il faut les répéter 27 fois.
27 fois non, mais non. 2 fois, c'est pas mal.
Si je peux me permettre.
Oui, Gonzague Georges, je vous écoute.
On oublie très souvent aussi de compter les avortements. À cause du stérilet ou à cause de la pilule abortive. Oui. Donc on arrive largement.
Ceux-là, on les intègre pas, bien sûr. Non, moi, je parle simplement des avortements sanglants. Quand le chiffre que je donne, c'est ça. Bien, je dois faire. Alors, on nous a appelé, mais je sais pas, on n'a pas. Il y avait personne au bout du fil. Alors, je vais tout vous dire. Jean-Marie Le Pen m'avait appelé pour me dire, j'aimerais bien dire quelques mots de Jean Ferré, et puis apparemment son secrétariat a appelé, mais la communication n'est pas passée. Je le signale, si quelqu'un de son secrétariat nous écoute, j'ai vu Franck décrocher et lancer des halos désespérés sans avoir de réponse. Donc si on peut nous rappeler, si quelqu'un peut faire savoir au président que nous attendons son coup de fil, ce sera bien. Puisqu'on parle de politique, j'enchaîne tout de suite avec l'affaire de la condamnation de Bruno Maigret à deux peines, Bruno et sa femme, à deux peines de 8 mois de prison avec sursis 8 000 euros d'amende, assortie d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pour une durée d'un an, a été prononcée mercredi par le tribunal correctionnel de Marseille. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont les journaux rapportent ça, parce que c'est d'ailleurs énorme quand on y pense. La Chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé que la somme totale de 74 000 euros avait été indûment supportée par les justiciables de Vitrolles. Ça veut dire que la Chambre correctionnelle, la Chambre régionale des comptes n'a même pas lu le dossier, puisqu'il est établi dans le dossier de façon catégorique que quand Maigret a eu envoyé ce courrier, dont on dit que c'était un courrier de propagande pour le MNR, ce qui est faux, c'était un courrier de demande de remerciement au maire et qui était lié à des demandes de signature pour les présidentielles. Donc c'est pas la propagande pour le MNR, c'était un maire qui demandait des signatures pour pouvoir se présenter aux élections. Mais l'argent a été immédiatement remboursé par Maigret de sa propre poche. Donc les contribuables, ils n'ont rien supporté. En revanche, quand M. Donne-Dieu de Vabre s'est mis je ne sais combien de billets dans la poche, c'est pas lui qui a remboursé, ce sont les contribuables qui ont supporté la dépense. Quand M. Juppé a fait payer des dizaines de permanents du RPR aux frais de la princesse, en trouvant ce qu'on appelle des emplois fictifs dans les administrations et dans diverses sociétés, c'est bien les contribuables qui ont payé. Donc au moins on pourrait dire la vérité. Et d'autre part, infliger 8 mois de prison avec sursis, un an d'inéligibilité, c'est-à-dire une peine plus lourde que celle qui a été supportée par Juppé à quelqu'un qui a fait moins, on a quand même le droit de se poser la question, et comme le dit Bruno Maigret, je suis condamné aussi sévèrement que M. Juppé qui a détourné 1 600 000 euros et qui n'a rien remboursé, je fais appel, dit-il, ce sera suspensif et je serai candidat aux élections présidentielles et législatives. Et il ajoute, on ne peut pas faire confiance à une justice politicienne et partisane. Ce qui prouve que Maigret n'est pas un imbécile, car j'ai toujours dit qu'on reconnaissait les imbéciles et les escrocs à cette phrase magnifique, je fais confiance à la justice de mon pays. Celui qui dit je fais confiance à la justice de mon pays, c'est un imbécile ou un escroc, il n'y a pas de milieu, c'est comme les francs-maçons.
Et c'est hautement symbolique ce que tu dis, parce que... On a au musée des arts et métiers, au je ne sais où, une salle de la normalisation qui date de la Révolution en 1793. Alors, on établit des poids et mesures, Umberto Eco en parle dans le fameux pendule de Foucault. On établit un lien commun entre justement ces poids et la balance, et qui est censé symboliser la justice.
Mais la balance, c'est aussi le nom de ceux qui dénoncent.
Oui, on est bien d'accord.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dont je voulais parler? Ah oui, je vais dire une chose, je vais encore me faire des amis, mais qu'est-ce que vous voulez, tant pis, on est là pour ça. Je dois dire que je rigole bien, mais je rigole vraiment bien, quand j'apprends que les 180 000 établissements débit de boissons vont être obligés de passer à la caisse, parce que le Conseil d'État, c'est le Conseil d'État ou je ne sais quelle organisation, vient de décider que les accords que les organisations patronales de bistrot avaient passé avec le pouvoir visant à obtenir la non-application des 35 heures en l'échange d'une sixième semaine de congés payés sont frappés de nullité. Alors, le premier gag, c'est que pendant ce temps-là, depuis que ça a été établi, cet accord, les employés des débits de boissons, ils ont pris leur sixième semaine de congé payé. Eux, ils sont partis. Bon. Et ils ont travaillé 39 heures. Et maintenant, on leur dit, il faut payer en heures supplémentaires les heures qui ont été faites indûment. Alors, je ne veux pas me livrer à des calculs, mais il y a 180 000 établissements. On peut considérer, non, raisonnablement qu'il y a 2 à 3 employés par établissement. Mettons 3. Ça fait 500 000, arrondissant, 500 000 employés de cafetiers, restaurateurs, qui ont fait par semaine, pendant 3 ans, je crois, 4 heures de plus, autrement dit 200 heures par an, 600 heures par établissement, si c'est toujours compté, et 600 multiplié par, j'ai quand même dit combien, 500 000. Ça va faire beaucoup d'heures supplémentaires à payer. Ça fait, j'ose à peine le dire, mais je crois que ça fait bien 300 millions d'heures supplémentaires. Au salaire d'une femme de ménage, ça fait 3 milliards d'euros que les patrons de bistrot vont être obligés de sortir de leur poche d'un seul coup. Mais les ouvriers, enfin les employés qui ont pris leurs vacances, ils vont pas les rendre, les vacances. Eux, ils ont eu leur semaine de vacances, c'est fini maintenant.
Oui, mais comme dirait Ségolène, c'est du travail social.
C'est du travail social, c'est ça. Mais où je rigole, si j'ose dire, pardonnez-moi de trouver ça drôle, mais c'est que la plupart des patrons de bistrot ont voté UMP. Toutes leurs organisations patronales, le monsieur Daguin, président de l'UMIH, il passe son temps à dire que...
C'est quoi l'UMP, pardon Serge, parce que ça l'UMP, fait 5 ans que je suis plus là et je ne sais pas ce que ça veut dire.
Depuis longtemps. L'UMP, c'est l'Union des Misérables, non c'est...
Prostituée, non.
Non, c'est un truc... non.
C'est un truc...
Enfin, c'est un truc, ça appartient à Chirac.
C'est entre Cosette et sa mère.
La machine à perdre aussi.
Oui, c'est ça, l'Union pour la machine à perdre. Merci, Gonzague. Donc... ces gens-là qui ont fait confiance à Chirac, faites confiance à Chirac, vous ne serez jamais déçus, ils vont payer 3 milliards d'euros, et si j'ose dire, c'est bien fait. Voilà, ça vous apprendra à mal voter, et à faire confiance à des gens dont la devise est « nos promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ». Et puis il y a quelque chose qui me fait penser à ça aussi, c'est de voir la police républicaine se faire systématiquement tabasser pratiquement maintenant toutes les nuits à Épinay, avant la première précédente c'était au Mureau, au Tarteret.
Ils prennent des tartes.
Oui, alors on les appelle, on leur dit il y a une voiture en stationnement illégal, ils arrivent et là il y a 300 jeunes gens qui les attendent avec des pierres, avec des poubelles, avec des frigidaires, enfin des réfrigérateurs qui sont pris. Ils travaillent, les gars, parce qu'ils montent des réfrigérateurs au 12e étage sur les terrasses des immeubles pour le plaisir de les balancer sur les flics. C'est du boulot,
c'est de l'haltérophilie, hein, tout ça.
C'est de l'haltérophilie. Et, bon, je dirais pas que c'est bien fait, parce que non, c'est pas bien fait, pas du tout. Mais, au lieu d'embêter les automobilistes qui se baladent sans ceinture, au lieu de contrôler les gens dans la rue pour n'importe quoi, sous n'importe quel prétexte, il ferait mieux de s'occuper un peu plus des jeunes des cités qui ont besoin qu'on s'occupe de ces pauvres. Ils sont abandonnés par tout le monde. Et puis, en plus, c'est une question de morale publique. C'est dangereux de faire ce qu'ils font. Parce que, imaginez que les automobilistes décident de faire comme les jeunes.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que vous vous êtes arrêté parce que vous portez pas la ceinture, vous sortez avec votre manifeste, vous défoncez la tronche du flic.
Oh, quelle horreur !
Est-ce que vous croyez que ça va être supporté, ça ? Mais je vois pas pourquoi on supporterait de la part des jeunes des cités ce qu'on supporte pas de la part des automobilistes.
Ça, c'est le grand problème de notre époque postmoderne, c'est que on s'est réfugié dans le virtuel, on n'ose plus agir dans le monde réel, on s'est dégonflé physiquement face à l'adversaire, et l'adversaire a occupé tout le terrain, que ce soit sous la forme du jeune ou de son complice, le flic sarkozien.
Oui.
Ça, c'est un gros problème que j'ai compris en Amérique du Sud, c'est qu'en Amérique du Sud, on n'emmerde pas trop le type de la rue parce qu'on sait qu'il peut encore réagir.
Il peut encore être méchant, ouais.
Voilà, qu'il soit blanc ou indien. Ici, non. Donc on aplatit tout, et les gens se font raptousser, et après on arrive avec 55% de taux d'imposition fiscale et le taux d'insécurité sociale, si j'ose dire, le plus élevé du monde.
Oui, ce qui est fabuleux,
c'est à cause de la lâcheté physique.
On voit très bien que moi, ce qui me frappe, c'est la formidable lâcheté des citoyens On voit ce qui se passe avec la situation parisienne. Pardon. Où le sympathique jeune homme qui tient l'Élysée, qui tient, pardon, la mairie de Paris, a décidé de rendre la vie absolument intenable aux automobilistes parisiens.
Entre autres, hein, parce que pour les piétons, c'est pas marrant non plus.
Hein. Ben bien sûr, ça rend tout le monde fou, avec des cyclistes qui se baladent à 80 à l'heure sur les trottoirs.
Oui, on est... Moi, c'est la peur de ma ville.
Ben, forcément, il y a boulevard Magenta, par exemple, à Paris, il y a 3 à 4 accidents par jour, graves, devant chez moi, devant les bureaux du Libre Journal, place Franz-Liszt. Il y a 3 accidents, minimum 3 accidents par jour. Les motards qui sont renversés.
Prends des photos et vends-les à CNN. Hein,
mais j'avais dit à ma petite femme qu'il y avait un moyen d'augmenter nos fins de mois, c'était de placer une caméra sur la fenêtre et de filmer le carrefour, et dès qu'il y avait un accident, d'aller vendre la cassette aux victimes de l'accident en disant, tenez, c'est pas la peine de faire un constat, on a tout. Bon. Mais elle veut pas. Elle trouve que ça serait pas chrétien. Pardonnez-moi de tousser. Comme ça, mais c'est un peu l'histoire du tonton, pourquoi tu tousses.
À ce propos, abonnez-vous et rabonnez-vous au Libre Journal de la France courtoise.
Oui, c'est gentil de le dire, mais
c'est écrit de temps en temps, mais...
Kaufmann va venir le dire tout à l'heure.
Pour en profiter, oui.
Et puis les auditeurs vous disent quand même, ne parlez pas d'ânerie, Serge. Les ânes sont très intelligents. Puis alors après, je comprends pas très bien.
C'est vrai, c'est mignon comme tout, les ânes,
oui,
j'adore les ânes. J'aime les ânes, les loups et les rats.
Oui.
Moi, si, les rats, c'est extrêmement intelligent.
J'aime mieux les ânes.
Il faut pas dire du mal des rats. D'abord, c'est interdit.
Ils se tuent collectivement. Donc, c'est une intelligence.
Oui, oui. Non, mais moi, je m'entends très bien. Paris en banlieue. Tout.
Oui, mais là, je comprends pas bien ce qu'il veut dire après. Utilisez plutôt un mot bien français, commençant par un C. Il faut appeler un chat un chat.
Alors, les couenneries, alors.
Faudrait dire des chatteries.
Ou les chatteries, ou les couenneries. Non, les couenneries, c'est dire du mal des porcs. Et ça, je ne veux pas le faire. Monsieur Gollnisch, je vous salue bien bas. C'est monsieur Bruno Gollnisch qui fait son entrée dans nos studios avec une nouvelle coiffure. Je ne vous connaissais pas.
J'ai
monsieur.
Vu à la télé.
Ah bah oui, moi je regarde pas la télévision. Je regarde uniquement des films de cinématographe.
Elle est inspirée de la vôtre, mon cher.
C'est vrai. Oui, mais un peu longue quand même par rapport.
Vous me dressez les cheveux sur la tête, cher maître.
Bien, alors Bruno, je peux vous le dire maintenant, je vous ai invité ce soir, mais je vous ai réservé une surprise. C'est que ça n'est pas moi qui vais vous interviewer, ce sont ces deux jeunes gens qui s'appellent Gonzague Georges et Pierre Degnaud. Et j'ai pensé que ça serait amusant, intéressant de vous faire interroger par des étudiants, par des jeunes gens. Quel âge avez-vous, messieurs?
20
Pierre.
Ans.
Pierre a 20 ans.
Et 20 ans aussi.
Ah, c'est bien. Donc un intervieweur de 40 ans.
Et ces messieurs sont des étudiants.
Des étudiants. Et enfin, c'est ce qu'ils prétendent. Mais...
Qui étudient quoi?
Le droit. Pareil.
Et il n'y a pas de ce métier.
Ben non. En quelle année? J'ai même entendu dire
deuxième.
En deuxième année.
Troisième.
Oui, parce que lui, il a redoublé.
À Paris.
Je capte, hein, ben non.
Pas grave.
Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient fait du droit et qui faisaient une carrière politique, même.
Le droit mène à tout à condition d'en sortir. Oui, mais c'est vrai qu'il est dans notre société de plus en plus juridicisé. Peut-on utiliser ce barbarisme? Il est utile dans presque toutes les activités. Maintenant, pour être plombier, il va falloir...
avoir une licence en droit.
Ouais. Oui, au minimum. Et si on embauche un apprenti en droit social...
Mais j'entendais Ratier qui expliquait tout à l'heure que si Strauss-Kahn réussissait si bien dans son métier, c'était pas tellement parce qu'il plaidait, c'était surtout parce que il avait un bon carnet d'adresses. En fait, donc, c'est un marchand de tuyaux. Et donc, il y a une espèce de communauté d'activité entre certains avocats et des... Enfin, entre les avocats et les plombiers, c'est du même ordre.
Certes.
Et comme les flics aussi sont parfois plombiers, on voit que finalement le monde est sous le règne de la plomberie.
Et les journalistes. Et les journalistes. Et
voilà.
Les
journalistes. Bien, alors eh bien, je me soumettrai aux questions de ces messieurs.
Moi, ce que je voudrais vous demander d'abord, c'est... je sais que vous m'avez dit au téléphone, vous avez l'intention de... dire quelques mots de Jean Ferré. Je crois que
Oui, je voudrais saluer la mémoire de Jean Ferré, qui a été l'un des principaux, pour ne pas dire le principal animateur, de cette radio, qui est quand même un espace de liberté extraordinaire dans le paysage médiatique actuel. Et je crois savoir que pour arriver à maintenir cette fenêtre ouverte, eh bien, il faut dépenser une énergie considérable. Il a réussi à fédérer des talents divers, dont vous êtes, et beaucoup d'autres, au-delà de divergences, d'ailleurs, ponctuelles. Et ça aussi, je crois que c'est tout à fait remarquable, puisque je pense que la famille nationale est parfois, hélas, plus prompte à se diviser qu'à s'unir, d'avoir pu librement débattre sur Radio Courtoisie de tous les sujets qui nous intéressent, d'avoir réuni ce panel de talents, d'avoir réussi à maintenir la barque dans des conditions financières difficiles. Tout cela est tout à fait remarquable.
Vous savez, c'est un peu... moi, j'ai connu Jean Ferré en 84, puisqu'on a créé Radio Courtoisie à la suite d'une aventure qui m'était arrivée à moi. Factuellement, historiquement, c'est ça qui s'est passé. J'avais une émission sur Radio Solidarité que Jean Ferré m'avait fait obtenir en imaginant de créer sur Radio Solidarité le journal attendu. Et à l'époque, donc, il nous avait fait inviter par Bernadette Bémer, dite d'Angevilliers, il nous avait fait inviter sur Solidarité en tant qu'équipe de minutes. Et puis à la suite de la première émission, c'était une catastrophe absolument effroyable, parce que personne de chez nous n'avait jamais fait de radio, bien sûr. Et c'était encore pire que ce que je fais aujourd'hui à l'époque. Et les autres collaborateurs de Minute m'ont dit, nous on veut plus, c'est un truc de fou, la radio on veut plus y aller. Donc je me suis retrouvé tout seul avec Marc Hémer et on a continué les émissions. Et jusqu'au résultat des élections, alors on a invité à l'époque Le Pen, etc. Et jusqu'au résultat des élections européennes, où le FN avait fait un score de
11%,
et,
oui,
et
84, oui. Voilà. C'était le coup de tonnerre dans la vie politique française, oui.
Simone Veil était folle de rage, littéralement folle de rage, et elle avait passé un savon carabiné à Philippe Malot, qui était le créateur de Radio Solidarité, et qui avait placé là son ami Bernadette. Et Malot a passé un savon à Bernadette, qui m'a viré en disant que j'avais tenu des propos racistes parce que déjà à l'époque, parce que j'avais dit que au lendemain des émeutes de Fessenheim, où les Verts allemands étaient venus faire de l'agitation en territoire français, j'avais dit décidément les Allemands nous emmerderont toujours, qu'ils soient verts de gris ou qu'ils soient verts, que ce soit en 40 ou en 84, c'est toujours les mêmes qui viennent.
Ce qui prouve qu'il vous arrive parfois, Serge, de tenir des propos racistes.
Mais absolument, oui, je reconnais, c'était malvenu de ma part de dire du mal des verts de gris. Je fais d'ailleurs, là, je fais ma repentance. Et puis elle avait ajouté, ça c'était encore plus drôle, que finalement elle ne pouvait pas conserver Minute. Parce que Minute avait titré à la mort de De Gaulle, enfin, point d'exclamation. Or, cette pauvre femme avait fait une confusion regrettable. Ça n'était pas du tout à propos de la mort de De Gaulle qu'on avait titré enfin, c'était à propos de la mort de Messrine.
Ah oui.
Donc je suis parti en riant, mais je suis parti quand même, et Ferré...
Dont on fait aujourd'hui un chevalier blanc, mais qui avait séquestré et abominablement torturé un journaliste de Minute, oui.
Bien sûr, un épouvantable voyou de la pire espèce. Et donc Ferré est allé voir Bernadette en lui disant, c'est pas possible, vous pouvez pas supprimer cette émission. Et elle lui a dit, si vous n'êtes pas content, vous partez. Et Ferré est donc parti aussi, par solidarité avec moi. Et il m'a téléphoné en me disant, la seule solution maintenant, c'est de créer notre propre radio. Et ce qu'on a commencé à faire tout de suite en créant ça c'était le coup de génie de Jean, qui était quelqu'un qui réfléchissait énormément, qui mettait au point des stratégies très très intelligentes. Et il a donc créé le CDARS, qui était le comité de défense des auditeurs de Radio Courtoisie. Et tous les gens qui étaient censés, supposés être scandalisés par mon éviction et celle de Jean, étaient priés d'envoyer leur adhésion au CDRS, et plus actuellement de signer une pétition par laquelle ils demandaient à la haute autorité de l'audiovisuel de nous accorder une fréquence. Et je me souviens, avec quelques amis, avec ma femme, avec Philippe Varlet, etc., on venait ici le soir et on mettait sous enveloppe les pétitions qu'on envoyait. Et ça a marché, on a eu une fréquence. Et les premières émissions ont eu lieu, je le dis pour les auditeurs qui sont venus dans ces studios. Alors les premières émissions ont eu lieu dans un appartement de la rue d'Auteuil, où on faisait des émissions dans une salle à manger. Sur la table de la salle à manger, c'était un technicien qui...
Un vrai intermittent du spectacle, c'est
vrai. Voilà, vraiment. Hein. Et puis ensuite, on a trouvé ce local. Qui, chose amusante, le local actuel de Radio Courtoisie était une ancienne pizzeria qui avait appartenu à quelqu'un que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, qui n'est autre que Dominique Hérulin. L'auteur de La Grande Piste. À un moment de sa vie, dans une de ses innombrables vies, il a été propriétaire de pizzeria, associé avec un ancien du bâtiment qui, pour s'occuper, comme il n'y avait pas beaucoup de clients dans la pizzeria, avait décidé de sculpter les murs. Et les sculptures que vous voyez sur les murs intérieurs, c'est l'associé de Dominique qui les a faites pour occuper son temps perdu à attendre des hypothétiques clients. Et je racontais ça, je crois que c'était à Jean Madiran, il n'y a pas très longtemps, qui me dit, mais oui, mais je me souviens, nous avons déjeuné dans cette pizzeria à l'époque. C'était en train de devenir un rendez-vous de la droite bien-pensante. Donc il y avait déjà, les lieux ont leur prédestination, hein, il faut bien dire quand même, parce que... d'imaginer qu'une pizzeria fréquentée par la droite bien-pensante va devenir la radio de toutes les droites, c'est... Et donc les premières émissions ont eu lieu dans les locaux de l'administration ici, parce que le studio ici était occupé par des squatters. Je crois qu'ils étaient iraniens ou irakiens, je me souviens pas très bien, mais ce dont je me souviens parfaitement, c'est qu'ils n'ont pas résisté aux arguments de Jean-Luc de Carbuccia quand il est venu leur expliquer qu'ils ne pouvaient pas rester.
Il leur a fait une proposition qu'ils ne pouvaient pas refuser.
Exactement. Il leur a fait une proposition qu'ils ne pouvaient pas refuser. Il leur a dit, voilà, le camion est devant la porte, vous prenez vos meubles et vous mettez dans le camion, on vous emmène. Et bon, ils sont partis, on a pu récupérer les studios. Et on a fait... Mais ça s'est passé dans le respect strict de la loi, je m'en préviens.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
On n'est pas des... Il n'y a eu aucune violence. Mais je ne sais pas pourquoi, Jean-Luc, c'est peut-être le nom. Il y a quelque chose de convaincant chez lui. C'est fait partie de ces gens dont... comment s'appelait l'auteur des fameux auteurs de dialogue, de cinéma. Audiard disait... Audiard disait, quand les gens de 120 kilos parlent, les gens de 60 kilos les écoutent. Alors, Jean-Luc ne fait pas 120 kilos, il s'en fout probablement de la moitié, mais je ne sais pas pourquoi on l'écoute comme s'il faisait 120 kilos.
On l'écoute quand même.
Plus. Voilà, ça c'était les petites anecdotes du tout début. Il y a aussi les histoires de recherche de sous dont j'ai déjà parlé, qui étaient assez pittoresques. Et puis, ben voilà, maintenant, on cherche toujours l'argent, quoi, c'est tout. Mais autrement, les studios, on les a. Enfin, le studio, on l'a. On a une cabine technique magnifique. On a maintenant...
Oui, puis ce qui est plus important, vous avez réussi à fidéliser des auditeurs. Ça, c'est je crois, ce qui est essentiel.
Oui.
Il y a un réseau, il y a des habitudes qui sont prises.
Et puis, fidéliser aussi des directeurs d'émission. Et ça, c'est pas évident, parce que...
Oui.
Cette obligation, cet engagement bénévole, c'est assez exceptionnel. Même dans les organisations politiques, c'est assez exceptionnel de réunir autant de gens qui, pendant 20 ans, viennent régulièrement.
Tout à fait. La persévérance étant la première des vertus politiques. Mais je vois d'ailleurs, mon cher Serge, que les auditeurs nous font parvenir des questions nombreuses.
Parlez-vous, par pitié, soignez-vous, on a besoin de vous. Vous êtes une créature de Dieu. Ah oui, ça c'est vrai, mais c'est pas...
Mais...
c'est gentil. Oui, des questions ?
ce matin, en regardant le télématin, il y avait un court reportage.
Vous savez, vous avez un micro à la radio.
J'avais oublié que je l'avais prêté. Ce matin, en regardant le télématin, il y avait un court reportage sur l'affaire de Vitrolles. Maigret tend la main à un des personnages du tribunal et le courageux refuse de lui serrer la main. Dites. Alors.
Je sais pas pourquoi je pense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est fiotte.
C'est ça.
Ça c'est dans le dictionnaire ou pas ?
Est-ce qu'on a le droit ?
Je suis pas assez calme. Vous savez pas, Jean-Pierre ?
Non. C'est dans le dictionnaire de la colère.
Dans le dictionnaire d'argot. Alors, actuellement, il y a une contestation sur le bien fondé d'une loi interdisant de nier le génocide arménien. Et les contestataires disent qu'il ne faut pas faire de loi sur l'histoire. Il faut laisser ce soin aux historiens. Oui. Que pense M. Gollnisch, qui est poursuivi pour avoir dit la même chose ?
Eh bien, je pense que ceux qui disent cela ont raison. Je crois d'ailleurs qu'il faut distinguer deux choses que l'on confond tout à fait. Il y a d'une part la reconnaissance par l'État, par les autorités d'un fait historique. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'État sans mémoire. La mémoire de l'État est parfois sélective. Nous célébrons la prise de la Bastille, ou plus exactement la fête de la Fédération, mais elle commémorait elle-même la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, disons les choses clairement, a été une affaire abominable de massacre d'anciens combattants, gardes suisses, invalides, à qui on a promis la vie sauve, qui ont été lynchés, et tout ceci pour un établissement qui ne renfermait plus dans ses murs que 5 ou 6 personnes, dont 2 escrocs, un fou, un prodigue, un sadique. Bon, donc ça n'est pas le fait d'armes que l'on nous décrit d'habitude. Mais malgré tout, ça fait partie des mythes fondateurs de l'État. Bon, et l'État célèbre le 14 juillet la prise de la Bastille, et moi-même, je vibre un peu au défilé du 14 juillet aux Champs-Élysées, même beaucoup, quelquefois. Du temps que c'était un défilé militaire. Maintenant, on fait un peu de la broderie, il y a un peu de musique, un peu de danse, enfin bon. Bref, au lieu de faire défiler des régiments, on fait défiler des sections. Je crois que c'est un peu à l'image.
Ils vont coupler avec la Gay Pride prochainement.
Je ne sais pas. Bon, alors ça, bon, le 11 novembre, c'est tout à fait normal que la France célèbre le 11 novembre. Il était normal qu'on célèbre la fête de Jeanne d'Arc, qui est d'ailleurs une fête officielle, comme d'ailleurs certains officiels s'en souviennent depuis que le Front National la remise à l'honneur. Ça c'est une chose. Je trouve tout à fait normal qu'on commémore les souffrances des juifs et d'ailleurs des non-juifs au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve tout à fait normal qu'on commémore aussi celle des Arméniens. Je l'avais moi-même proposé d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Ce que je trouve anormal, c'est qu'on interdise d'en discuter. Il n'est pas interdit de discuter du 14 juillet, comme je viens de le faire. Il n'est pas interdit de discuter de la Première Guerre mondiale. Il n'est pas. Alors, je ne vois pas pourquoi il serait interdit. Je crois que c'est de discuter des faits de l'histoire contemporaine et avec ce concept extrêmement vague de contestation. Alors, où s'arrête, où commence la contestation ? Personne ne le sait. En réalité, ce sont des lois totalitaires qui ont pour but d'empêcher un examen d'un certain nombre de faits. Et qui pourrait déranger en particulier notamment les communistes, dont il faut rappeler que la loi Guesso est d'inspiration communiste. Il faut rappeler qu'un certain Jacques Toubon, qui apparemment en est devenu le partisan à l'époque à la tribune de l'Assemblée nationale, dit, et c'est inscrit au journal officiel des débats de cette Assemblée, ce que vous êtes en train de faire, je cite mot à mot, c'est ce que faisait un certain Staline. Voilà. Moi je ne suis pas stalinien, je trouve absolument ahurissant qu'il y ait moins de liberté aujourd'hui en France mais qu'il y en a à Moscou. Je ne croyais pas voir cela de mon vivant. En tout état de cause, ces lois perverses ont un effet d'entraînement. Ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs. Sur beaucoup d'autres personnes, y compris Luc Ferry, y compris des gens comme ça, parce que maintenant chacun réclame, chaque communauté en quelque sorte réclame que la mémoire de ses souffrances passées soit érigée en dogme qui serait absolument intangible sous peine de blasphème. Alors aujourd'hui ce sont les Arméniens. Il faut quand même dire une chose, quelque amitié que j'ai pour les Arméniens, dont encore une fois le premier est en 1987 87, le 10 octobre 87 pour être précis, il y a des traces au journal officiel, à l'époque, ma proposition a été rejetée par tous les autres partis politiques en dehors du groupe Front National. Par conséquent, je n'ai pas de leçons à recevoir dans ce domaine. Mais je n'en suis que plus à l'aise pour dire à nos amis arméniens, leur rappeler un certain nombre de choses. Premièrement, d'abord, le fait que la France n'a aucune part de responsabilité dans ce qui leur est arrivé. N'est-ce pas ? Les Arméniens sont venus en France comme réfugiés, ils ont été accueillis à bras ouverts, ils sont devenus français, c'est très bien, mais ils ne sauraient exiger, je le dis très clairement, que quelles qu'aient été les effroyables souffrances qu'ils ont vécues, ils sauraient exiger d'entraîner la France dans les querelles qu'ils peuvent avoir, même légitimes, qu'ils peuvent avoir conservées avec l'État turc. La politique française doit se faire en fonction des intérêts de la France, premièrement. Deuxièmement, il ne saurait exiger non plus que le souvenir de ces souffrances passées soit érigé en dogme intangible qui serait hors de la discussion du libre examen de la recherche des historiens. Je crois que c'est un très mauvais service à rendre à la mémoire arménienne que de la barder, comme pour la mémoire juive d'ailleurs, de tout un arsenal de lois répressives. Il est bien évident que demain ce seront les Noirs qui vont dire, et avec quand même quelque apparence de raison, mais pourquoi n'érigerait-on pas en dogme qui serait interdit de contester dans la pratique, d'examiner, de discuter, de réfuter le souvenir de l'esclavage et de tout ce qui a pu l'accompagner. Et puis ensuite ce seront par exemple les homosexuels qui se plaindront des brimades qu'ils ont subies ou des temps où l'homosexualité était interdite sous des sanctions pénales, et il y aura des commémorations officielles qui seront décrétées par les gouvernants qui croiront s'attirer les sympathies électorales du lobby homosexuel, et ainsi de suite. Et moi, je crois que c'est un effet ravageur d'explosion de la communauté nationale, et que tout ceci alimente, d'une part, un discours victimaire, qui ne profite pas aux communautés en question, tout au contraire. Deuxièmement, ça alimente le doute, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où une vérité est protégée sous peine de sanctions pénales, ben, ça ne peut que faire douter de sa véracité, puisqu'on se dit, ben, elle ne s'impose donc pas par elle-même. Bon. Et troisièmement, ça alimente aussi ce que je trouve extrêmement déplaisant, quels qu'en soient les auteurs, une culpabilisation générale du fond, de ce qui reste du fond originel, si j'ose dire, de la population française. Parce que la célébration incessante de ces génocides, de ces massacres, etc., finit par mettre dans le crâne des Français, qui sont responsables de tous les maux de l'univers, et que même ceux qu'ils ont accueillis, fraternellement, qui sont devenus leurs compatriotes, ont sur eux, au titre de leur abstention, au titre de leur lâcheté, au titre de je ne sais quoi, des droits, une créance absolument imprescriptible. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les revendications de certaines personnalités ou organisations juives contre la SNCF. Bon, on ne sait pas où ça, pourquoi s'arrêter à la SNCF. Il faut, il y a ah, aussi
les
évidemment
les
constructeurs de rails, les fabricants de l'automotive, etc., etc. Et je pense que ça finira par aboutir chez un très grand nombre de Français à un phénomène de rejet, d'exécration. Bref, tout ceci contribue à l'éclatement de la communauté nationale, et
oui,
c'est pourquoi je le condamne.
Vous savez, je crois que vous prenez les choses un peu d'une façon un peu pessimiste, parce que imaginez que, bon, je parlais de la Gay Pride tout à l'heure, mais dans le droit fil de la Gay Pride, il faut s'attendre d'ici un an, deux ans, trois ans, à voir ce qu'on pourrait appeler la zoophile Pride à Paris. Oui, ça, mais le spectacle peut être intéressant, ça peut être amusant quand même. Les gens qui vont défiler avec des boucs, avec des chèvres, mais il n'y a pas de mail, enfin, etc. Bon, ça, c'est une chose. Il y a autre chose, en ce qui concerne les protestations, enfin, les réclamations de repentance, moi, j'en vois une qui pourrait prospérer. Alors, je dépose l'idée tout de suite, puisque je la rends publique. je m'adresse là directement à la corporation des voyantes qui pourrait demander des, d'être dédommagée pour les millions, les centaines de millions de sorcières dont François de Sainte-Marie nous expliquait tout à l'heure qu'elles ont été sacrifiées sur les bûchers de l'Inquisition.
Oui, c'est vrai. Pendant des siècles, voilà. Pendant des siècles, on a brûlé des femmes en prétendant que elles se livraient à un sabbat, elles s'envolaient voilà. sur des balais, etc.
Les fabricants de balais,
avec. Mais je pense que c'est un petit peu sous-jacent dans certaines revendications féministes qui visent aussi à culpabiliser la partie masculine de la population à laquelle j'appartiens. La guerre des sexes, à mon avis, n'aura quand même jamais complètement lieu parce qu'il y aurait trop de collaborateurs.
Très jolie formule. Bien, donc votre. Alors finissons-en avec cet aspect des de questions que je voulais vous poser, puis après je donnerai la parole aux jeunes gens s'ils le veulent. Votre procès en sorcellerie vient quand ?
Alors mon propre procès en sorcellerie qui a été reporté 4 fois, qui est un procès double. D'ailleurs, je suis le seul justiciable de France à être poursuivi 2 fois pour les mêmes faits. D'ailleurs, à l'initiative du MRAP, mais le MRAP local s'est joint à l'action directe du parquet, lequel, après avoir envoyé à M. Perben un rapport qui m'innocentait, est chargé de me poursuivre sur ordre de celui-ci. Et donc, cache le rapport. Je n'ai aucune confiance dans la justice de mon pays, je le dis tout de suite, et clair. Bon, et le MRAP national, qui est en bisbille avec le MRAP local, lui a déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui a eu pour effet de saisir un juge d'instruction, M. Chauveau. Ce juge d'instruction, qui est proche de sa fin de carrière, ce qui est un gage d'indépendance, mais ne partageant pas tout de suite, je m'empresse de le dire pour ne pas lui nuire, les idées du Front National, m'a reçu à plusieurs reprises, a pris connaissance de l'ensemble du dossier, s'est refusé à me mettre en examen, et au bout de plusieurs mois d'instruction, a dit j'en ai assez, je n'aime pas ces lynchages médiatiques, et il a rendu une ordonnance dont il résulte que je n'ai commis aucun délit de contestation de crime contre l'humanité, que j'ai eu parfaitement raison de mentionner le massacre de Katyn au sujet duquel la vérité est bien connue, tout cela est un montage médiatique qui résulte d'approximations, de contre-vérités dont je ne suis en aucune façon responsable et donc il n'y a absolument pas lieu, ne serait-ce que de renvoyer M. Gollnisch devant un tribunal. En revanche, comme j'avais parallèlement déposé une plainte contre le président de la région, Jean-Jacques Kerrane, qui m'avait diffamé et fait de moi une espèce d'enfant naturel d'Adolf Hitler et de Frankenstein, coupable de la mort de 6 millions de juifs, de la déportation des enfants d'Izieux, etc., au conseil régional, sans me laisser la possibilité de répliquer, ce qui était évidemment plus facile comme cela. Donc j'avais porté plainte en diffamation contre Jean-Jacques Kerrane, président socialiste du conseil régional Rhône-Alpes, et M. Kerrane a donc été convoqué chez le juge d'instruction, qui lui a demandé s'il était bien celui qui avait lu publiquement devant les radios, les télévisions, ce texte contre moi, et sur une réponse qui ne pouvait être qu'affirmative, il a mis en examen M. Kerrane pour diffamation à mon encontre. Mais comme M. Kerrane a dit que cette déclaration avait été rédigée par le président du groupe socialiste, M. Avocat, du groupe communiste, M. Beauchaton, du groupe radical, M. Friedenberg. Le juge a convoqué M. Avocat, Beauchaton et Friedenberg, et il les a mis également en examen. Et comme ceux-ci se targuaient d'avoir également l'aval de M. Guémard, vous savez, M. 600 mètres carrés, que j'avais pourtant omis d'accabler, moi, parce que je n'aime pas non plus les lynchages médiatiques, j'ai eu bien tort, lui il n'a pas eu ce genre de scrupules, de M. Cornillet, président du groupe UDF, de M. Leroy, président du groupe des Verts, le juge a également convoqué M. Cornillet, Leroy et Guémard, les a mis en examen, et finalement, au bout de quelques semaines, a rendu une ordonnance qui renvoyait le président du conseil régional devant le tribunal correctionnel. Les 3 suivants étaient renvoyés également dans le tribunal correctionnel comme co-auteur de la diffamation et les 3 derniers comme complices. Je dois dire que je suis merveilleusement défendu par Maître Valran de Saint-Just. D'une façon tout à fait remarquable. Cette ordonnance du juge a été un petit tremblement de terre Cette ordonnance du juge a été un petit tremblement de terre que l'on doit aux diligences de maître de Saint-Just, et aussitôt tous les signaux ont fonctionné, les signaux de détresse, et on a vu descendre des dignitaires très importants de loges maçonniques qui exercent la profession d'avocat, qui sont venus, enfin bref, ils ont obtenu en justice l'infirmation de cette ordonnance, et par conséquent je ne sais pas ce qui va se produire, parce qu'il y a un supplément d'instruction, mais cependant le tribunal au principal, lui, me poursuit en violation du principe non bis in idem, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être poursuivi deux fois pour les mêmes choses. Alors mon procès doit avoir lieu le 7 et 8 novembre. Alors mesdames, messieurs, si certains d'entre vous sont à Lyon de passage les 7 et 8 novembre, eh bien qu'ils viennent rue Servian au palais de justice, tribunal de grande instance, chambre correctionnelle, audience présidée par monsieur Schier, et je peux vous dire qu'il va y avoir du sport. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est un peu complexe quand même comme affaire.
Plus clair serait difficile.
Vous avez été très clair, mais un peu rapide. Alors, c'est gentil, vous redonnez la date.
Alors, 7 et 8 novembre prochain, à moins que ça soit renvoyé une cinquième ou sixième fois, parce qu'il y a tellement d'incidents de procédure, et je dois dire que nous ne faisons rien pour les éviter. Donc, 7 et 8 novembre prochain, à Lyon, c'est tout près de la gare Pardieu, rue Servian. Le palais de justice, le nouveau palais de justice. Voilà.
À quelle heure ?
9h30 du matin pour commencer, mais ça va durer deux jours. Donc vous pouvez venir et ne prendre que quelques...
Ça ne vaudrait pas le coup d'organiser un TGV spécial.
Voilà. Ah, très volontiers.
Il faudrait y penser.
Voilà. Donc, oui, il va y avoir du sport, parce que j'ai l'intention d'aller à ce procès en accusateur et non pas en accusé. Alors, comme j'ai pour moi le droit, la justice, l'équité, et même la loi, je suis évidemment extrêmement inquiet.
Oui, c'est beaucoup.
Je pense que...
C'est beaucoup.
Je pense
mais
que...
Mais je voudrais quand même corriger une chose. Vous avez laissé entendre que des influences maçonniques auraient pu se manifester dans ce
cas. Non, je constate que l'un des avocats de la partie adverse qui est descendu pour plaider et pour demander l'affirmation en appel de la très belle ordonnance du juge Chauveau est un très haut dignitaire. Voilà.
Oui, c'est un pur hasard. Hein.
Je le pense.
Oui,
je suis persuadé qu'il n'a rencontré ni dans le parquet, ni dans la magistrature,
aucun frère.
Voilà.
Bon, c'est évident. Ouais. Pas... Alors, messieurs les jeunes gens, Pierre et Gonzague, Pierre Degnaud et Gonzague Georges, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions intéressantes à poser, intéressantes si possible, je ne sais pas. Oui.
Ils ont une page complète.
Une page complète de questions soigneusement rédigées. Oui, Gonzague, c'est vous qui commencez.
Merci beaucoup. Les grands médias ont beaucoup jasé, M. Gollnisch, sur votre coiffure nouvelle.
Ah oui.
Votre coupé rouge.
C'est mon coupé rouge.
Et je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un début de pipolisation au Front National, qui avait déjà été entamé par d'autres de vos collègues, et qui signifierait...
Des noms.
Une certaine... Je n'oserais pas. Et qui signifierait une certaine normalisation qui serait peut-être de bon augure...
Attaquant, hein.
Je vais vous dire très sincèrement, je me suis coiffé en arrière parce qu'une partie de mon entourage féminin me disait que ma coiffure était un peu triste. Alors en été, vous savez, souvent on se laisse pousser la barbe ou les favoris ou voilà. Moi, je me suis coiffé les cheveux en arrière, voilà. Et puis je suis resté provisoirement comme ça. Je crois pas être le seul. Alors, je sais que le journal Le Monde a trouvé cela beaucoup plus intéressant que de faire part des travaux de notre université d'été où j'ai quand même convié, en présence de Jean-Marie Le Pen, notre président, 130 élus régionaux, à débattre de l'avenir des institutions françaises.
Mmh.
Et c'est très sérieusement pendant deux ou trois jours. Bon, ça n'a pas fait une ligne dans la presse, mais le fait que je me coiffe les cheveux en arrière plutôt que sur le côté, c'est, semble-t-il, un événement majeur de la vie politique française. Je découvre ça avec une certaine stupéfaction. D'autre part, j'ai acheté, en effet, une voiture rouge.
Formidable.
Une Chevrolet Camaro 5 litres 7 V8, etc.
Vroom, vroom.
Et Jean Kikin, ceux à qui ça déplaît. J'ai 56 ans, j'ai été avocat international, doyen de faculté, parlementaire depuis 20 ans. J'ai de quoi m'acheter une voiture rouge.
C'est mieux que de prendre une maîtresse.
Même neuve. En plus, je l'ai acheté d'occasion, c'est-à-dire très exactement pour le prix d'une Clio. Pas avec toutes les options. Et pourquoi est-elle rouge ? Eh bien parce que, d'abord, c'est joli, et en plus, je l'ai acheté encore une fois d'occasion chez Jean-Charles Automobile, publicité gratuite, sur les quais de Seine, où j'ai toujours trouvé que c'était une belle voiture, la Chevrolet Camaro. Malheureusement, elle n'a pas d'équivalent dans la production française. Et un jour, je suis tombé devant une voiture comme ça, qui était à vendre pour pas cher du tout, parce qu'elle a elle appartenait à un couple de gens que je ne connais pas et qui sont collectionneurs de voitures rouges. Donc, s'ils avaient été collectionneurs de voitures vertes, ma voiture eût été verte. Voilà. Donc, ils avaient déjà une Ferrari rouge, une Maserati rouge, une Porsche rouge et la Chevrolet rouge. C'était, semble-t-il, la Chevrolet rouge, c'était pour les courses de madame. Bon, eh bien...
les courses, le petit marché.
Voilà, le petit marché. Alors, quand ce couple a acheté une Cadillac, eh bien, ils ont laissé en dépôt vente leur voiture et moi j'ai racheté cette voiture. Voilà. Et je pense que j'ai le droit d'acheter une voiture américaine d'occasion à mes frais avec un argent honnêtement gagné et pour autant ça ne fait pas de moi un partisan de la politique étrangère du gouvernement de Washington, que les choses soient claires. Voilà. Est-ce que mes explications sont suffisantes? Je revendique le droit pour les gens de ne pas avoir de voiture, d'en avoir de petites, d'en avoir de grosses, des chères, des bons marchés, des neuves, des occasions. Voilà, je suis pour la liberté individuelle.
Ah, voilà,
et je trouve qu'on emmerde beaucoup nos compatriotes de toutes sortes de façons. D'ailleurs, on laisse les gens acheter des voitures, payer des impôts, des charges, des taxes, la TVA, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la taxe sur la carte grise, la taxe sur le permis de conduire, que paient encore un certain nombre de jeunes conducteurs, etc. Et quand ils utilisent leur voiture, on les culpabilise. Bon, je trouve que c'est insupportable, voilà.
Mais on aboutira bientôt à obliger les gens à avoir une voiture, à la laisser tourner toute la journée devant chez eux, à condition de pas trop, que ça ne pollue pas, mais pas s'en servir, parce
voilà.
Que, bien évidemment, une voiture qui avance, c'est dangereux. La seule voiture qui n'est pas dangereuse, c'est celle qui ne bouge pas.
Voilà. En Afrique, ils mettent des voitures qui ne roulent pas, d'ailleurs, devant la...
Voilà, alors, moi, je précise que je respecte
comme les lunettes sans verre et les stylos sans...
Voilà, alors, durant toute ma vie, je précise quand même que durant ma vie, qui commence à être longue maintenant, mon épouse, moi-même, nous avons été respectivement possesseurs de Twingo, de Clio, de 206, d'une Xantia, et même pour mes déplacements, d'une 607, très belle voiture, rapide, confortable, etc., made in France. Mais voilà, j'ai craqué pour la Chevrolet Camaro d'occasion, et je ne le regrette pas. Ce n'est pas un acte politique, je précise, c'est un acte de consommation.
Non, mais je vois pas la question des jeunes. La question, c'était de savoir si vous étiez sur la piste de Ségolène Royal, à mon avis.
Non, je vis comme je l'entends. Voilà, je suis à Noblib. Si demain je vois un objet qui me plaît, avec un argent qui a été honnêtement gagné, qui n'est pas le fruit de la corruption, voilà, je l'achèterai, même si ça fait jaser les envieux.
Non, je crois surtout, M. Golnis, qu'on vous reproche, c'est d'être un responsable d'un parti politique assez détesté, puisqu'à ce titre, vous ne devez certainement pas avoir le droit de vous faire plaisir, d'acheter une voiture au même titre que... On ne poserait certainement pas ce genre de questions à un ministre en fonction qui les accumule et qui, lui, ne respecte probablement pas les limitations de vitesse.
Je le pense. Je crois que votre question contient en elle-même, mon cher Pierre, sa réponse. Voilà. On est allé jusqu'à me dire ce que je trouve assez ignoble. Comment se fait-il que j'ai une voiture plutôt riche alors qu'il y a des électeurs pauvres qui votent pour moi? Ben moi, j'espère que les électeurs pauvres qui votent pour le Front National, nous aspirons à les rendre moins pauvres et à ce qu'ils puissent tous s'acheter parvenus à près de 60 ans, s'ils ont mené une vie de travail honnête, la voiture qui leur plaît.
D'autres questions, messieurs les inquisiteurs?
À ce propos, justement, concernant le niveau... on peut dire peut-être social des Français, que proposez-vous par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune, puisque on voit, enfin, par rapport aux propositions qui sont faites par l'UMP, on subodore qu'éventuellement il risque d'y avoir quelques changements, mais qu'on n'osera pas remettre en cause la loi en elle-même, puisque récemment un sondage est sorti annonçant que les Français étaient en large majorité favorables à cet impôt qui n'a certainement pas probablement plus lieu d'être et qui n'a jamais eu lieu d'être, puisqu'on n'est pas en France dans un système de lutte des classes où la classe prolétaire devrait bénéficier des transfuges de la classe capitaliste. Est-ce que le Front National propose la suppression, au même titre que l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la...
Bon, c'est une question de priorité. Je pense, contrairement peut-être à mon collègue et néanmoins ami Jean-Claude Martinez, que cet impôt est un impôt imbécile, qu'il coûte à l'État plus qu'il ne lui rapporte, peut-être pas dans les coûts de perception. Jean-Claude Martinez pense que ça n'est pas vrai, que les coûts de perception soient très élevés par rapport à ce que rapporte cet impôt. Mais je pense qu'il est particulièrement démotivant. Il dissuade les gens d'acquérir un patrimoine. Il incite, quoi que l'on en dise, à placer l'argent à l'étranger. C'est tout à fait évident. En revanche, je pense que ce qu'il faut faire en priorité, c'est supprimer l'impôt sur le revenu par étape, en commençant par les revenus les plus faibles, et sur 5 années, c'est je l'espère ce que pourrait faire un gouvernement dans lequel le Front National occuperait la position dominante, parce que ceci transformerait radicalement les conditions en France, parce que ceci attirerait des capitaux étrangers, ceci attirerait une dépense importante, et que c'est tout à fait normal. Les gens vont là où ils sont le moins ponctionnés. Voilà. Je crois que ce serait ça. Je vais être très franc avec vous. Je pense que l'ISF est un mauvais impôt, mais notre priorité serait à la suppression de l'impôt sur le revenu. Il y a déjà de quoi faire.
Jean-Pierre Rondeau, qui est conseiller financier indépendant, j'aimerais bien qu'il nous donne son opinion sur cet aspect de la question.
Il est vrai que Bruno Gollnisch est en train de me mettre à moitié au chômage, parce que la moitié de mon travail consiste à essayer de faire payer le moins d'impôts possible à mes clients. Et il est vrai, donc, on le constate, qu'une partie de l'argent se délocalise ou part dans des placements qui sont à mon avis pas très sains, ce qu'on appelle souvent les placements de défiscalisation, les aides aux dom-toms et toutes les niches, et qui servent surtout à enrichir des fabricants de produits peu scrupuleux.
Ah oui, en plus sur l'impôt sur la fortune, il y a un côté complètement grotesque, c'est que la fixation du barème de cet impôt n'a tenu aucun compte de l'évolution des prix, notamment de l'immobilier.
C'est comme tous les impôts. Au départ, je rappelle que le terme, c'était IGF, sauf erreur de ma part, impôt sur les grandes ou grosses fortunes. Bon, aujourd'hui, on tombe sous le coup de cet impôt si on est propriétaire d'un 3 pièces à Paris, et une maison à la campagne. Bon, il y a le célèbre exemple, je crois, des paysans de l'île de Ré,
oui, ça, c'est
qui se sont ont trouvé devoir cet impôt sur la fortune alors que leurs revenus ne leur permettaient pas de les payer simplement à cause du renchérissement du prix du prix de leur terrain. C'est vrai que les gens sont taxés sur la spéculation immobilière, sur les prix de l'immobilier qui montent, parce que là encore, sous le prétexte tout à fait fallacieux à mon avis de conserver des espaces naturels ou agricoles, en réalité on restreint artificiellement dans notre pays le terrain à bâtir. Alors, je suis tout à fait d'accord pour qu'on construise pas n'importe quoi, n'importe comment. Je serais même d'accord pour qu'on renforce la réglementation dans
le littoral,
et qu'on impose par exemple en Provence d'avoir des tuiles romaines, en Bourgogne d'avoir des petites tuiles plates, etc., qu'on respecte les matériaux, les couleurs, l'harmonie du patrimoine. Je trouve effroyable que pour réaliser ce qui est souvent le rêve de leur vie, c'est-à-dire disposer d'une maison individuelle, ce qu'après tout pouvaient s'offrir leurs ancêtres, quelquefois même très modestes, eh bien les Français doivent aujourd'hui débourser 800 000 francs, 1 million et plus, pour acheter à l'open de terre de 1000 mètres carrés. S'ils pouvaient l'avoir à 20 ou 30 000 francs, excusez-moi de parler encore en francs, eh bien ils pourraient dépenser des sommes beaucoup plus importantes dans la construction et construire mieux.
Il n'y a pas que l'immobilier, il y a par exemple les actions. On a vu des gens qui ont perdu pas mal d'argent il y a quelques années dans la bourse et qui mettent de l'argent dans des sociétés et qui font tourner l'économie et qui s'enrichissent et qui payent deux fois aussi alors qu'ils ont pris des risques. Ils payent deux fois, ils payent d'abord sur les plus-values, sur les revenus, mais ils payent aussi l'impôt sur l'ISF.
Voilà. Mais bon, c'est pour ça que moi j'achète une voiture.
Voilà. Au moins on est
tranquille. Je suis sûr qu'elle ne prendra pas de
ça
la valeur.
Si ça devient une voiture de collection à 1 milliard, vous
non, avez non, collection, ouais. Alors, ah bon, ça devient Monsieur Fabius.
Ah, bah oui, c'est vrai, c'est l'exception Fabius.
Ah oui, ça me tombe plus sur. C'est vrai.
Collectionner les voitures rouges.
Voilà, collectionner les voitures rouges, vous échapperez à l'ISF.
Bien. D'autres questions? Avant, je voudrais faire une remarque sur la question des impôts. C'est que les impôts sont fixés par le Parlement.
Oui.
Je trouve obscène, je le dis comme je le pense, que certains, que c'est, les impôts soient fixés par des gens qui, par exemple, à l'heure actuelle, sont en train de se battre pour obtenir que la SNCF, écoutez bien ce que je vous dis, prenne en charge le supplément de billets de 8 euros qui est demandé aux sénateurs et députés qui vont à Luxembourg. Parce que, je vous explique, en deux mots, ces élus disposent d'une carte de circulation sur les voies de chemin, enfin sur le réseau ferré français,
qui jusqu'à présent... J'en avais une quand j'étais député, voilà, oui.
Qui jusqu'à présent permettait de voyager jusqu'à sa destination. Or, avec le TGV, il se trouve qu'il y a une petite modification qui est intervenue, et que par exemple... Il y a une ligne de TGV maintenant qui va de Paris à Luxembourg. Et en fonction d'accords commerciaux qui ont été passés par la SNCF avec ses partenaires européens, comme on dit maintenant, la gratuité est valable pour le trajet de Paris à la frontière, mais de la frontière à Luxembourg, la SNCF ne prend pas en charge le cadeau. Donc on demande aux députés de payer leur billet 8 euros, billet de TGV. Eh bien, ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils assassinent littéralement la direction de la SNCF de pression, d'intervention, de lettres, de réclamations, de revendications pour que la SNCF prenne en charge cette augmentation, enfin ce paiement de 8 euros. Et la SNCF est en train de prendre des dispositions pour ça. La direction a fait savoir qu'elle allait effectivement prendre en charge. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la SNCF? C'est une boîte qui n'est même pas en déficit. C'est une boîte qui est en faillite en réalité. Qui vit exclusivement du fric piqué aux contribuables. Après s'être débarrassé de tout ce qui coûtait de l'argent, notamment le réseau rail, qui, je le dis aujourd'hui, prenez date de ce que je vous dis. Avant 10 ans, on aura une catastrophe ferroviaire gravissime en France, parce que le réseau n'est pas entretenu. Et, par exemple, il y a des patrons de certaines zones du réseau qui ont pris la décision devant l'état de délabrement de certains tunnels, d'interdire la circulation. Or, c'était sur des trajets internationaux. Et ça pouvait provoquer un grand scandale. Et ils ont dit, moi, je ne signe pas les travaux, parce que je ne signe pas l'autorisation de circulation. Parce que le jour où il y aura un accident, c'est moi qui comparaîtrai devant les tribunaux. Et c'est pas vous, messieurs les politiciens, qui me donnez l'ordre de signer. Donc, je ne signerai pas ça. Si bien que là, on a fait les travaux en toute urgence. Mais cet argent est abondé par le contribuable exclusivement, et c'est les députés qui votent les impôts qui réclament maintenant à la SNCF de creuser encore plus son déficit. C'est dérisoire, 8 euros, mais le geste est là, pour pouvoir aller à Luxembourg sans rien payer. C'est vraiment honteux. Ces gens-là sont obscènes.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est que si on peut bien s'agir des députés à l'Assemblée nationale, oui, et qu'ils aillent si souvent à Luxembourg.
Alors justement,
qu'est-ce qu'ils y vont faire à Luxembourg,
hein? Que vont-ils faire à Luxembourg?
Que vont-ils faire à Luxembourg? Moi, j'ai un souvenir très précis. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, par deux fois, en 87 et 88, j'ai défendu à l'Assemblée l'excellent amendement de mon collègue Jean-Claude Martinet, qui visait à supprimer l'abattement de 45% dont disposaient les députés. Et donc, il n'était imposé que sur 55% de leurs revenus parlementaires, de leur indemnité. Et alors, nous avons proposé qu'ils soient alignés sur le régime normal, habituel des salariés, c'est-à-dire l'abattement de 10% pour les frais professionnels, ou alors, à ce moment-là, qu'ils soient aux frais réels. Et je dois dire que ça a été la stupeur et la consternation dans les rangs de nos adversaires.
C'est vraiment des mal élevés.
À 2h du matin. Alors, on nous a expliqué d'ailleurs que c'était une figure classique de l'anti-parlementarisme que de se livrer à une telle démagogie. Et puis alors, nous l'avons emporté, si j'ose dire, à titre posthume. Parce que après 88, la disparition de notre groupe sous l'effet de la modification du mode de scrutin qui a été, je le rappelle, la seule réforme du RPR et de l'UDF entre 86 et 88. La seule a été la modification du mode de scrutin pour faire disparaître le Front National. Donc après la dissolution de 88 de Mitterrand, qui s'était engagé à ne pas dissoudre, qui a donc dissous le lendemain de son élection, sa réélection à la présidence de la République, comme les socialistes étaient très engoncés dans des vilaines affaires de corruption, pour essayer de se blanchir un petit peu, ils ont voté cette disposition, ce qui fait que l'abattement de 45% a disparu. Voilà. Donc Martinez et Le Pen et Gollnisch, enfin, on finit par gagner, je n'ose dire à titre posthume, puisque nous ne sommes plus à l'Assemblée nationale, mais nous y reviendrons. Quand nous y passons, les huissiers nous demandent instamment quand est-ce qu'ils vont nous revoir,
qu'on
rigole un peu, voilà.
Bien.
J'avais une question à poser,
oui,
à
Nicolas.
À Bruno Gollnisch, je suis depuis des années hors de France, en Espagne puis en Amérique du Sud. Je reviens à Paris et je constate que les prix qui étaient jadis libellés en francs le sont en euros. Et vous parliez de l'immobilier il y a quelques minutes. Moi, je relisais Machiavel il y a peu de temps et il dit qu'un prince, un tyran, parce qu'en fait c'est un traité sur la tyrannie, pour asseoir son pouvoir, doit disperser les populations. Et avec l'arrivée, la mise en train de l'euro, j'ai pu constater qu'à Paris est une ville vide, vidée par les maîtres MAIE. TRES carré, c'est une ville qui s'est vidée, c'est une ville qui a été vidée de sa population, la population a été remplacée et dispersée dans les grandes banlieues, dans le 9-5, dans le 9-3, dans le 9-2. Alors quelle est la position du Front National et quelle est votre position personnelle par rapport à cet épouvantable remplacement de population auquel nous avons assisté? Je termine juste, je pense personnellement qu'en 10 ans, les prix de l'immobilier ont triplé à Paris. Moi, je ne reconnais plus mon pays. Bon, la population a été remplacée, là on revient sur Machiavel, mais l'immobilier a également aidé à vider la Dordogne de ses habitants, le Vaucluse de ses habitants, la Côte d'Azur de ses habitants. Vous voyez qu'il y a des Russes qui arrivent avec des valises de 90 millions d'euros, vous, on va vous embêter pour 15 euros d'amende à un stationnement interdit, mais les mafieux qui arrivent, les oligarques, pour ne pas dire un autre mot, sous votre respect mon colonel, qui arrivent avec 90 millions d'euros pour s'acheter une baraque à Cap Ferrat, ceux-là, étrangement, on les laisse tranquilles. Alors quelle est la position du Front National et de la vôtre en particulier?
Alors,
par rapport à ça,
il y a deux changements de population. Il y a un changement de population sous l'effet de l'immigration. Nos positions, oui, sont bien connues. Nous sommes pour l'inversion du courant de l'immigration. Et contrairement à ce que croient, ou à, enfin, ce que disent un certain nombre de commentateurs malveillants, nous avons pour ça des solutions. Nous avons des dizaines de propositions qui forment une politique cohérente, pas du pointillisme comme Sarkozy, visant à faire sortir les gens du squat de Cachan pour les reloger aussitôt à l'hôtel. Bon. Alors, je ne veux pas rentrer là dans le détail, je crois que nos positions sont quand même bien connues. Et puis alors, il y a un deuxième facteur très important, celui que vous évoquez, à savoir le fait que le centre de Paris, c'est-à-dire Paris-Ville, qui est le centre de l'agglomération, se vide complètement, devient une ville de... largement devient une ville dortoir, et que, en revanche, la banlieue augmente indéfiniment, et c'est une espèce de cancer vide le reste de la France de sa substance. Où, contrairement au cas de l'Allemagne ou de l'Italie, voire de l'Espagne, il n'y a pas de métropole, de véritable métropole d'équilibre. C'est une absurdité totale. C'est une politique d'aménagement du territoire désastreuse et qui doit être inversée. Surtout, et Jean-Marie Le Pen le dit très souvent, à l'époque maintenant du télétravail, de la communication par Internet, un simple clic, on envoie, on reçoit un document, on peut travailler dessus, le renvoyer à l'expédition, éditeurs, etc. Il faut trouver un autre mode d'aménagement du territoire, du genre de vie, alors que nos campagnes aujourd'hui sont moins peuplées très souvent qu'elles ne l'étaient au Moyen-Âge, quand les rendements agricoles ont été multipliés par 10 ou par 15. Donc tout ça, c'est une politique aberrante. Nous voulons mieux répartir la population sur le territoire.
Vous évoquez ce problème du Moyen-Âge. Moi, en revenant en France, j'ai l'impression d'un pays qui est en jachère. C'est-à-dire qu'on a 60% de gens qui sont sous-employés ou pas employés du tout. Et on a un territoire qui s'est vidé de sa population, avec des populations qui sont concentrées le long de corridors qui sont celui du Rhône-Alpes, etc. Et puis,
au-delà de ça,
un désert français, mais qui est devenu, mais si vous voulez, caricatural.
Oui, mais qui ne restera pas vide éternellement, bien sûr.
Avec des zones réintroduites parodiquement. D'abord, parler d'une résurrection parodique du passé à propos des villages dortoirs type Gordes, par exemple, dans le Luberon, ou des villages bourguignons, etc., peuplés d'anglais maintenant, remplacés par les anglais. En Dordogne, on parle de 40% de population anglaise maintenant dans les agglomérations paysannes. Et alors, comment faire pour renverser ça? Parce que c'est quand même une loi du pognon, c'est une deuxième guerre de 100 ans, si vous voulez, que les anglo-saxons nous livrent, parce que bon, on a eu la guerre qui nous est livrée à l'Andalous par le Maghreb et par l'Afrique subsaharienne, et puis on a une guerre qui vient du Nord, qui vient de l'Allemagne, qui vient du Benelux, qui vient avec l'Europe et notre bénédiction quelque part, qui vient de l'Angleterre, qui vient de l'Amérique du Nord, et qui dit, bon, ben, on arrive avec les dollars, avec notre économie spéculative gonflée à l'hélium, comme les seins de nos femmes, que ce soit, pardon, Victoria, que ce soit via la bourse de New York ou que ce soit l'immobilier à Manhattan qui vaut 20 000 dollars le mètre carré maintenant. Donc avec ça, on peut s'acheter un château en Bourgogne ou on peut s'acheter un château dans le Périgord. Que va-t-il nous rester à nous, pauvres mères, des catholiques parcs pour nous concentrer dans 25 ans dans les zones que voudront bien nous laisser les 101 maliens et les frères Rapetou de Wall Street?
Oui, c'est contre tout cela que nous inscrivons notre combat, c'est tout à fait exact.
Je vois que vous me comprenez bien, mais je ne suis pas optimiste, parce qu'il y a 20 ans, on était plein d'espoir avec Serge quand je venais à ses premières émissions, quand j'étais militant au GUD, et maintenant, 20 ans plus tard, si vous voulez, je suis quand même frémissant
par rapport
à l'inertie des gens.
Le temps travaille contre nous.
Oui.
Mais nous pourrons trouver des alliés, peut-être inattendus seulement. Il faut...
Ah ben il n'y a plus de couscous dans Paris, voilà, on aura peut-être les Arabes avec nous.
Il faut inverser toutes ces évolutions, et ça suppose la mise en œuvre d'une politique globale. D'abord, pourquoi est-ce que les terres et les maisons et les manoirs, les fermes sont à vendre? Ben c'est parce que les gens qui les ont sont progressivement ruinés. Donc, par conséquent, ça pose tout le problème de notre agriculture, de notre viticulture, par exemple. Là, à l'initiative de Jean-Claude Martinez, nous allons lancer une espèce de marche verte de la viticulture qui va partir en novembre ou décembre, en particulier auprès des milieux viticoles les plus défavorisés, qui sont ruinés par la politique du mondialisme. Alors que ce que dit Jean-Claude et qui est très vrai, c'est que il nous faut tenir bon quelques années, parce que dans ces quelques années, par exemple un pays comme la Chine qui est en train de s'industrialiser, son niveau de vie va augmenter, il n'a pas les ressources agricoles pour nourrir convenablement l'ensemble de sa population, et nous allons trouver, si nous tenons bon, de nouveaux marchés, de nouveau nous pouvons être le garde-manger d'une partie du monde sur nos terroirs et rentabiliser notre agriculture. Mais ce que vous dites est très vrai. Moi, il y a une revue que j'aime bien parcourir. C'est une revue purement d'annonces immobilières qui s'appelle Belle Demeure de France.
Oui.
Je lis ça régulièrement parce que je me prends à rêver. Je me dis, si je gagnais au loto, voilà, je pourrais
plutôt
acheter
qu'une Chevrolet Camaro,
plutôt qu'une Chevrolet,
une baraque à 8 millions d'euros,
une Chevrolet d'occasion. Cette belle ferme normande à Colombages, ce beau manoir périgourdin, c'est formidable. Notre pays est un véritable jardin. Je comprends qu'il soit attractif pour des étrangers, bien sûr, mais on peut prendre des mesures. Écoutez, les Suisses, qui ne sont pas au banc des nations, ont décrété une fois pour toutes que la règle générale, ce serait l'incessibilité de leur patrimoine immobilier. Sauf un certain nombre de programmes immobiliers spécialement autorisés dans certaines stations ou ailleurs, et là où on a le droit de vendre aux étrangers. Là, on sait que dans cet immeuble, eh bien, une fois qu'on aura construit cet immeuble, on peut vendre les appartements aux étrangers. Dans le reste du pays, on ne peut vendre qu'aux Suisses.
Ils veulent rester
maîtres chez eux. Bon, c'est une mesure un peu draconienne, mais moi, je vois bien, dans cette revue dont je parlais, eh bien, on voit, dans ma région du Rhône, on voit mise en vente de très jolies demeures qu'on appelle en pierre dorée. C'est une pierre calcaire qui luit au soleil, à la lumière. Ce sont les maisons du Beaujolais. Voilà, les fermes du Beaujolais, des exploitations viticoles. Pourquoi ? Parce que les viticulteurs sont ruinés. Si les viticulteurs étaient prospères, eh bien, ils ne vendraient pas, évidemment, leur patrimoine immobilier.
Je ne sais plus qui avait, si c'est vous ou votre collègue Jean-Claude Martinez, que vous avez évoqué deux fois, parler d'une langue européenne il y a une quinzaine d'années à Strasbourg, au Parlement.
Je pense que c'est plutôt moi, là.
Oui, parce que
la question des finances, c'est lui, pour ce qui est des lettres.
La question m'intéresse bien. Je vais en Terre de Feu, je vais dans l'Altiplano, je vais dans la forêt amazonienne, je parle espagnol. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une langue impériale latine pour s'exprimer. Cet été, je suis allé en Roumanie, qui n'est plus du tout un pays francophone.
Hélas, il était admirablement francophone.
De Paraguay anglophone. Et je me dis, mais l'Europe ne pourra jamais se faire. Il faut absolument imposer dès l'âge de 5 ou 6 ans, je ne sais pas que je tiens spécialement à l'Europe, tu le sais bien Serge, mais bon, l'Europe ne pourra pas se faire si on n'a pas quand même une langue commune, et qu'il soit autre chose que le baragouin anglophone,
le basic English,
mais que personne ne parle, et alors que les Anglais ne veulent pas être de l'Europe. Donc, je veux dire, pourquoi se fatigue-t-on? On pourrait choisir l'allemand, le latin, l'espagnol, l'espéranto, que sais-je.
Voir le français.
Moi, j'avais pensé, mais c'est pas
le latin,
on m'a fait le reproche d'être un peu élitiste.
Il y avait deux solicistes.
Le jour où le catalan, pour lequel j'ai la plus grande sympathie, est devenue langue officielle, pas langue de travail. En Europe, il y a eu un rapport, j'ai fait une intervention et j'ai dit, c'est très sympathique le catalan, mais évidemment, toutes les fois qu'il y a une langue de plus, ça multiplie les problèmes de traduction. Alors maintenant que sont entrés l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, il faut traduire du magyar en grec, ou du portugais en estonien,
du maltais en moldovalaque,
du letton en maltais. Non, mais c'est authentique. Je ne sais pas si vous voyez, quelquefois ça perd un peu de... Bon, même si nous avons des interprètes et traducteurs très compétents. Alors je dis, mais il faudrait revenir à une langue qui nous soit commune, qui ne peut pas être la langue d'un des États membres, et cette langue, ça pourrait être le latin. Et j'ai continué en latin. Mais je dois dire que pendant la nuit, je m'étais procuré un gaffio, et comme je n'avais pas fait de version latine depuis 35 ans...
Et là, c'est du thème, en plus.
Oui, c'est du thème.
C'est encore pire.
Oui, j'ai bossé. Ouais, ça va, il paraît que j'ai montré ça à un de mes collègues, le professeur Lafargue, retraité en Alsace et professeur de lettres à l'université de Lyon, qui m'a dit, ça va, sauf là, vous avez mis un accusatif plutôt qu'un datif, mais plaute commet cet archaïsme. Bon, je dis, ouf. Ouf, si on me dit quelque chose, je dirais, mais enfin, écoutez, voyez Plaude.
C'est la plutocratie.
Bon. Alors là, évidemment, les interprètes ont été largués, ça a été assez amusant. Et alors, j'ai trouvé, il y a un socialiste portugais, je pense que ce sont les seuls socialistes cultivés, qui m'a répondu également en latin. Otto de Habsbourg était très content. Otto de Habsbourg était très content. Mais lui était un peu comme Charles Quint, son ancêtre. Je lui ai dit un jour, Monseigneur, vous êtes comme votre illustre ancêtre Charles Quint. Vous savez qui était tout à fait polyglotte puisqu'il parlait, dit-on, je crois, en anglais à ses chevaux, en allemand à ses chiens,
en italien en amour, en espagnol à Dieu, en français aux diplomates
et en espagnol à Dieu. Mais il ne parlait pas sa langue maternelle qui était le flamand. Ça fait beaucoup de peine à nos amis du Vlaams Belang qui viennent de remporter un succès important à Gand et dans d'autres villes de Flandre.
J'ai entendu tout à l'heure dire aussi, je crois que c'est sur cette radio, me semble-t-il, je suis pas certain, oui si c'est sur cette radio, que en pays flamand, en Belgique flamande, on interdit aux enfants de parler français dans les cours d'école et aux parents qui viennent chercher leurs enfants de leur parler français dans le périmètre de l'école. Ce qui a attiré ce commentaire totalement incongru à l'autre personne qui parlait, je crois qui c'était, et qui a dit, mais c'est du nazisme, parce que c'est toujours du nazisme. C'est du nazisme.
Dès qu'il y a une mesure
même,
d'autorité.
Il n'y a que le Troisième Reich qui a fait ça. Et si j'avais été là, j'aurais dit non, il y a la République
française qui en France chez les petits bretons.
Interdisait de parler breton et de cracher dans les cours d'école.
Mais ceci étant, pour terminer sur l'histoire du latin, c'était évidemment un petit peu...
Une petite
provocation, mais c'est pas si absurde que ça. Moi, je rappelle quand même que
c'était une bonne idée. Hein.
En Israël, on parle l'hébreu, qui était déjà une langue morte à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ.
Oui, bien sûr.
Hein, bon, et donc c'est une langue morte que le nationalisme israélien, le mouvement sioniste, dans un souci identitaire, qu'après tout, je comprends. Réussi à ressusciter. C'est quand même une performance absolument incroyable.
Ouais, moi, je trouve qu'on devrait parler gaulois en France. C'est une très belle langue. Mais malheureusement,
il n'en reste plus grand-chose.
Vu le chemin vers lequel la construction européenne s'oriente, la prochaine langue européenne, ce sera le turc.
C'est bien possible.
Alors à propos de Turc, vous parliez tout à l'heure de l'Arménie et enfin de la tragédie arménienne. Et j'ai lu dans Le Monde que Erdogan, président arménien ou premier ministre arménien, prétendait que Chirac lui avait téléphoné en disant cette loi. Turc, bien sûr. Pardonnez-moi ce lapsus idiot. Le premier Turc a donc prétendu que Chirac lui avait téléphoné en lui disant non, la loi ne passera pas, je m'y opposerai par tous les moyens, etc. Vous avez entendu parler de ça?
Oui, j'ai lu ça comme vous dans les journaux parce que ni Monsieur Gül, ni Monsieur Erdogan, ni Monsieur Chirac ne m'ont fait leur confidence.
Parce que s'il est sur ce chemin-là. Ça le conduira inévitablement à d'autres décisions du même ordre. Quand il va téléphoner au Premier ministre israélien en lui disant, cher ami, je suis désolé, mais étant donné que j'ai pris la décision pour l'Arménie, je suis obligé de faire la même chose pour vous.
Il y a eu un précédent où la volonté du Parlement a été ouvertement bafouée. C'est une loi qui a été critiquée là aussi au motif de l'intervention du politique en histoire.
C'est la colonisation.
Le rappel des aspects positifs de la présence française outre-mer. D'ailleurs, c'est pas la colonisation, c'est la présence française outre-mer. Bon, ce qui n'était pas du tout une loi Guesso. Parce que le fait que la République reconnaisse que la présence française outre-mer est eu des bienfaits, ça me paraît tout à fait légitime. Ce qui serait illégitime, c'est qu'on interdise à certains, sous des sanctions pénales, de critiquer cette position si ça leur chante. Voilà. Enfin bref, et là, ça a été la volonté du législateur, a déjà été bafouée. Mais je n'ai pas répondu à toutes les questions de Pierre et de Gonzague.
Mais malheureusement, il est
7h30. Alors, une dernière peut-être, monsieur Bourreau.
Un petit rajout, la loi était accompagnée d'un hommage aussi aux combattants des colonies, il me semble. Et puis, c'était pour ajouter, il n'y a pas uniquement une allusion au côté positif de l'occupation.
Mais c'était un hommage légitime.
Alors vous avez 30 secondes pour votre dernière question qui laissera une minute à vous donner pour répondre.
Vous savez que les élections étudiantes ont dans certaines régions ou académies été invalidées, notamment sur la demande de l'UNEF. Donc elles auront lieu dans plusieurs académies cette année. Si le Front National était élu, est-ce que vous proposez des réformes dans ce domaine? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est le moyen pour des syndicats d'extrême gauche qui ne disent pas leur nom de recevoir des subventions gigantesques de la part de l'État.
C'est un gros problème parce que l'enseignement supérieur, et pas seulement supérieur, est totalement trusté par les syndicats ultra-minoritaires et majoritairement tenu par la gauche
et
par l'extrême gauche. Par l'extrême gauche, ça c'est sûr. Et les autres sont d'ailleurs bien souvent d'une lâcheté assez confondante. Je suis très pessimiste. Je crois que il faudrait instaurer une espèce de concurrence qui ne laisse plus de place qu'à l'émulation du mérite. Je ne vois pas d'autres solutions. À l'heure actuelle, nous cumulons les inconvénients du jacobinisme d'un côté, enfin de l'étatisme d'un côté et du féodalisme de l'autre.
Néo-féodalisme. Le problème dans les élections étudiantes, si on prend le cas d'Assas, qui est réputé pour être une université plus de droite, l'UNEF arrive en tête quand même. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls à se mobiliser et ce sont même les seuls à tracter, alors que tous leurs tracts ne sont absolument pas lus, puisque la majorité
d'Assas
est de droite peut-être.
C'est le gros problème, c'est que les gens de gauche et d'extrême gauche travaillent.
Voilà.
Et il ne faut pas s'étonner, évidemment, si nous en sommes là, c'est parce qu'il y a 100 ans, 150 ans de subversion dans la société, avec méthode, avec sérieux et évidemment avec une certaine efficacité. Essayons de faire l'inverse.
Il est 7h30, c'est le temps qui nous est imparti est écoulé. Il n'est pas minuit plein, mais nos travaux sont quand même terminés, comme dit l'autre. Et nous reprenons la parole dans quelques minutes. Merci.
Sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 18 octobre 2006 dans la nuit de 2h à 5h. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Eh bien voilà la suite des passionnantes aventures de l'émission du mercredi soir. Il y a des questions ou des remarques à Bruno Gollnisch.
On va lui donner.
Oui, c'est bien, bien sûr.
Je vais répondre très vite. Alors.
Voilà. Alors moi je pose la première. Que pensez-vous, cher Bruno Gollnisch, de l'Union des Patriotes?
Je suis pour. C'est une idée lancée par Jean-Marie Le Pen. Contrairement à ce qu'a dit la presse, ça ne s'adresse pas exclusivement du tout au MNR. Ça s'adresse à tous ceux qui, dans leur sphère d'activité, peuvent y contribuer. Presse, journaux, associations, etc.
Ah, je crois que quelqu'un que nous attendions est au téléphone. Si vous voulez coiffer le... Oui. Voilà, ça, c'est comment ça s'appelle, le casque à pointe, bien entendu.
Oui.
Monsieur le Président, bonjour, comment allez-vous?
Allô, bonsoir Serge, ça va bien, j'ai essayé de vous joindre, mais pas très facile.
Mais non, parce que je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a avoué avoir fait une bêtise dans la transmission du numéro.
Alors,
et
passez-le par les armes.
Je vous donnerai son nom tout à l'heure, c'est... mais hors micro.
Bon, bonsoir Bruno.
Bonsoir Président, comment vas-tu?
C'est toi qui planche, me dit-on.
Oui, oui.
Je souhaitais profiter de ce petit créneau pour dire que je m'associais bien sûr au deuil de la station par la mort de Jean Ferré. Moi, je le connaissais depuis très longtemps puisque nous avions un petit peu donné un coup de main au moment de la constitution de la station avec les débris de Radio Caroline, mais je n'avais pas eu l'occasion d'être interviewé par lui, mais j'avais l'occasion de le rencontrer de temps en temps, et je voudrais saluer tout de même la mémoire de l'homme qui a permis, qui est une radio libre au moins, des idées nationales et françaises dans l'univers, en quelque sorte, médiatique français.
Mais je vous remercie, Jean-Marie Le Pen, de cet appel, parce que il a l'avantage de mettre les choses au point. Il y a eu deux ou trois auditeurs qui se sont étonnés de l'absence de réaction officielle du Front. Or, ça prouve qu'ils lisent pas les journaux, ou plutôt que les journaux ne publient pas les communiqués du Front.
Et oui.
Donc, je suis content que vous puissiez rectifier cette mauvaise impression. Et puis, j'aimerais aussi, si vous le savez, que vous nous disiez quand vous venez nous voir.
Ah ben, c'est ça. Il faut que nous en convenions, que nous en convenions ensemble. Voulez-vous qu'on reparle de ça plus tard?
On reparlera de ça, absolument. On va fixer une date et on fera une émission beaucoup plus complète. Merci en tout cas d'avoir pris la peine de nous appeler.
Bonsoir à tous et merci.
Bonsoir
Jean-Marie.
Voilà, pour ceux qui ne seraient pas attentifs, c'était Jean-Marie Le Pen. vous avez une question, Victoria?
Oui, il y en a plusieurs. Pourquoi le Front National veut-il supprimer l'impôt sur le revenu? L'impôt sur le revenu est bien plus élevé aux USA et en Grande-Bretagne qu'en France. Par contre, c'est l'inverse en ce qui concerne les charges sociales.
Oui, mais c'est parce que, précisément dans ces pays, ça intègre la cotisation et les cotisations sociales. Alors, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Nous voulons supprimer cet impôt parce qu'il est le plus démotivant. Et celui qui, par son système de perception, mais il y a ici de meilleurs spécialistes que moi, est le plus complexe et justifie toutes les inquisitions, l'incertitude. Ça n'est pas un bon impôt quand les gens ne savent pas exactement à l'avance quel montant ils vont payer, quand il y a toutes sortes d'exceptions, ce qu'on appelle les niches fiscales dont il était question ici tout à l'heure. C'est un impôt inéquitable et surtout qui paralyse l'entreprise, l'esprit d'entreprise, l'esprit de développement.
Et d'enrichissement.
Et d'enrichissement individuel qui bénéficie à la société.
Si le Front National était au pouvoir, procéderait-il à l'expulsion de tous les délinquants et criminels incarcérés dans les prisons françaises?
Oui, c'est la première expulsion à laquelle étrangers, bien sûr. Nous procéderions à l'expulsion. C'est à peu près le tiers de la population carcérale qui est d'origine étrangère. Nous procéderons pas à l'expulsion des étrangers en situation régulière qui ont un peu tardé à mettre 100 francs dans à mettre une pièce d'un euro dans leur rodateur, s'ils sont en stationnement payant. Mais ceux qui sont coupables de crimes et de délits graves, ils seraient évidemment expulsés. Et par conséquent, nous reviendrions sur l'abrogation des dispositions qui permettent cela, et qui est due, je le rappelle, à Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait voter l'impossibilité d'expulser les résidents étrangers, seraient-ils criminels ou délinquants multirécidivistes.
Alors aujourd'hui à Paris était organisée une votation citoyenne, il s'agissait de répondre par oui ou par... une votation citoyenne, c'est bien ça. Il s'agissait de répondre par oui ou par non à la question: êtes-vous favorable au vote des étrangers aux élections locales? J'ai vu ça en plein air, nous dit cet auditeur, il n'y avait pas d'enveloppe, pas d'isoloir, et il fallait laisser son identité.
C'est le vote stalinien, oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs, je vous rappelle que le premier pays à avoir théoriquement dit qu'il donnait le droit de vote au monde entier, c'était justement l'Union soviétique. Ouais. Tout le monde pouvait voter, mais pour un parti unique.
Ouais. Est-ce qu'il filmait son...
qui était celui des ouvriers et des paysans du monde entier, soi-disant.
Mais à propos de ça, un auditeur nous disait, dites aux Parisiens d'aller voter non à la votation, là.
là, parce que sans ça, les patriotes, si les patriotes ne se déplacent pas massivement, eh bien, Delanoë pourra dire ensuite que la majorité des Parisiens est pour le droit de vote.
Non, mais je crois que comme c'est un vote stalinien, je ne suis pas tout à fait de l'avis de ce monsieur, comme c'est un vote stalinien, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est qu'il y ait 100% de oui. Parce qu'on verra bien qu'à ce moment-là, les marxistes et internationalistes ont convié leurs partisans. Ce vote n'a aucune espèce de légitimité.
Alors, il y a une question, il y a des questions sur le Japon, mais ce que je vous propose, c'est il faudrait que vous reveniez un jour
très volontiers,
pour parler
pour
du Japon.
Alors, à moins que je réponde très brièvement d'une phrase.
Alors, comment jugez-vous la situation intérieure au Japon par rapport à l'Europe, et comment envisagez-vous l'avenir du Japon avec son nouveau ministre remplaçant M. Koizumi?
La situation intérieure du Japon est moins mauvaise qu'elle ne l'est en Europe, parce que c'est quand même encore un pays relativement cohérent et attaché aux valeurs traditionnelles qui l'ont fondé. Quant à la politique de Monsieur Abe, je pense que elle augure plutôt bien. Moi, je connais son entourage. J'avais été reçu par Koizumi. Je crois que ça va dans le bon sens. Je souhaiterais pour ma part qu'il s'émancipe un petit peu aujourd'hui de la tutelle américaine.
Quelles sont votre analyse et vos propositions au sujet de l'éducation nationale?
Oh là,
vaste programme.
Il faut rétablir l'émulation, le travail, la concurrence, simplifier les filières, poser en principe que, comme l'avait dit Chevènement, mais il a découvert l'eau tiède, qu'au sortir de l'enseignement primaire, on doit savoir lire, écrire, compter.
Correctement,
il faut rétablir les disciplines d'éveil de l'intelligence, la rédaction d'abord dans le primaire, la dissertation ensuite dans l'enseignement secondaire. Il faut que les filières soient beaucoup plus simples. Il faut sans doute donner une formation professionnelle, une initiation professionnelle en parallèle. Il faut cesser de poser en principe que tout le monde doit être bachelier et poursuivre des études purement théoriques dans les universités. Il faut rétablir l'émulation, l'excellence, la notation, la discipline. Enfin bref, beaucoup de choses à faire.
Tout. Et les châtiments corporels?
Non, pas nécessairement.
Il a fait ses...
Tant pis. Bien,
Monsieur Gulnich,
la dernière question.
En ce qui concerne l'omelette aux truffes, est-ce qu'il vous arrive d'y goûter? Merci à vous et bravo.
Oui, pas assez souvent,
Ça cache cette histoire d'omelette aux truffes.
Pas assez souvent.
C'est un message personnel.
Je vois qu'il y a encore une très longue question là. Allez-y, on va aller à la dernière.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur la réforme du code de la nationalité au programme du Front National? Des Français de l'étranger s'en inquiètent, car s'ils ont pris la nationalité du pays qui les héberge, ils ne voudraient en aucun cas perdre leur nationalité d'origine française. Est-ce que ces ressortissants pourront conserver les deux nationalités sans devoir choisir entre les deux? Si les gens ont adopté la nationalité australienne, par exemple, c'est pour des raisons pratiques de reconnaissance envers le pays qui les a accueillis.
Ben non, il faudra choisir. Non, mais si nous imposons aux étrangers qui sont chez nous de faire un choix, nous serons obligés, évidemment, d'admettre que les pays où séjournent un certain nombre de nos compatriotes le leur demandent aussi. Mais il y a un statut qui est celui de résident privilégié. On parlait du Japon, Jean-Marie Le Pen et moi-même connaissons une dame admirable qui vit au Japon, qui a construit une maison traditionnelle à Kyoto, qui est française, qui a beaucoup d'amis, se livre à toutes sortes d'activités culturelles, qui peint, qui écrit, qui fait de la poésie dans cette ville admirable. Elle est restée française. Elle a un statut de résident privilégié qui lui permet de ne pas avoir à demander le renouvellement de son visa chaque année. Je crois que c'est ça la solution.
Merci Bruno d'être venu nous voir et d'avoir répondu aussi
merci
gentiment
à vous. Je vais écouter avec intérêt les orateurs suivants.
Oui, mais alors il faut que vous laissiez votre micro parce que
je le laisse.
On en manque. Et pendant qu'on va faire la valse des chaises, comme d'habitude, je vais donner la parole à quelqu'un que certains de mes auditeurs connaissent, c'est Pierre-Marie, qui est l'homme au piano sans solfège, qui vient. Alors, je le fais pour une raison très simple, c'est que à longueur d'année, je suis sollicité par des auditeurs qui me disent « Mais où est-ce qu'on peut trouver cet homme-là ?» et tout. Alors, une fois par an, c'est la tradition, je le fais venir. Il nous explique en moins de 5 minutes ce que c'est que le piano sans solfège, et je demanderai à quelqu'un qui l'accompagne, en moins de 5 minutes aussi, de nous dire quelle expérience il a de ça. On a le temps, mon cher Patrick, ne vous affolez pas, on a un quart d'heure. Alors, Pierre.
Alors, en ce qui concerne le piano, bonsoir mesdames et mesdemoiselles et messieurs, il faut vous dire que la méthode n'est pas explicable 6 mois à l'avance. On vient, la première leçon, on fait ceci, la deuxième, on fait cela, la troisième, on fait cela, et à la 10e ou 20e, on a compris qu'on commence à jouer. D'ailleurs, on commence à jouer quelquefois la première leçon. La première leçon, elle sert à déterminer le plan de travail qu'il y aura à faire, le plan d'intérêt, et je vous assure que quand vous commencez à trouver Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, après tout devient facile. Écoutez, je vais vous dire. Au piano, les professeurs de piano classique apprennent le piano dans toutes les tonalités. Naturellement, le classique, lui, il se joue en Ré bémol, en Mi bémol, enfin, dans les 12 tonalités possibles. Moi, j'apprends le piano avec une tonalité. Quelquefois deux, la plus simple, le Do, oui. Il n'y a pas de touche noire dans le Do. Ce n'est, bon. Le Do est reconnaissable parce que le Do commence là où il y a 2 touches noires, et à côté il y a 3 touches noires, c'est le Fa. Bon, alors, tous les endroits où il y a 2 touches noires sur un clavier, la première note blanche, c'est le Do. C'est tout. Et il n'y a que le Do, puisque Do, tout le monde connaît Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
Ça s'apprend assez vite.
Et Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Oui. D'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose. Le monsieur qui est là, qui s'appelle Serge de Becquette, eh ben, il a fait 1 an de piano avec moi, et maintenant, il s'amuse follement.
Oui.
Et c'est authentique.
Je vais donner un concert prochainement à Gabo.
Non, mais c'est vrai. Non,
oui, non, mais bien sûr, bon, c'est vrai, on s'amuse bien, voilà.
Voilà, alors il ne faut pas oublier que s'amuser au piano à jouer les mélodies contemporaines qu'on entend, qu'on aime bien certains, c'est très bien, mais on n'apprend pas le piano pour jouer du classique, forcément. D'ailleurs, la plupart des gens qui apprennent le piano en classique, 80% ne donnent pas suite. Si ils ont engraissé le professeur de classique pendant 3 ans...
Je ne connais pas beaucoup de professeurs de classique qui soient gras. Hein.
Non, mais enfin, c'est une façon de parler. Bon, et au bout de 3 ans, ils arrêtent, ils ont 10 ans, 8 ans, 11 ans ou 12 ans, ils s'arrêtent et puis ils ne reprennent plus. Tandis que moi d'abord, mes élèves sont tous à peu près des adultes qui sont qui ne travaillent plus, enfin, qui sont qui décident d'apprendre le piano parce que c'est facile. Et c'est facile parce qu'on apprend en une tonalité, pas dans les 12.
Et puis c'est amusant.
Et puis c'est amusant.
Alors qu'à la deuxième leçon, quand on commence à jouer la mer,
mais voilà,
on fait des bêtises, mais on s'amuse bien. Et puis on se fait plaisir.
On commence avec les morceaux de traînée. La mer, douce France, enfin, les 4 ou 5. Et ça dure environ 15 jours, 3 semaines. Bon, il y a un morceau à chaque semaine, 1 ou 2. Quelquefois, il y en a qui en veulent 2. Ben, moi, je leur donne ce qu'ils veulent. Bon, et puis au bout de 3-4 semaines, on passe au jazz. Alors, Misty, enfin, et c'est toujours aussi facile, parce que c'est dans la même tonalité.
Et on finit par Rachmaninov.
Non, mais il y a quelques morceaux classiques qui sont accessibles.
La toccata et fugue en ré mineur de
Jean-Saint. La toccata, par exemple, est très facile. C'est en do, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, c'est l'anatole en do. C'est do, la mineur, ré mineur, sol septième. À part do septième et fa, enfin, c'est un accessoire.
Entre Bruno Gönisch qui nous proposait de nous parler latin et Pierre qui nous parle de do mineur, la mineur.
Mais si Bruno Gönisch voulait faire un essai. Bon, il n'a pas le temps, je dis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, les trois premières leçons, si vous ne continuez pas, elles sont gratuites. Vous êtes remboursé. Non, mais vous risquez rien. Si à la troisième leçon, vous voulez arrêter, vous êtes remboursé.
Bon, alors, ça y est, maintenant il a exposé. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose?
Ah oui, j'ai très bien compris.
Oui, mais vous, normal, vous êtes plus intelligent.
Non, mais on va prendre
une date. Voilà.
On va faire un
essai. Oui, parce qu'il a que ça à faire.
Non, il n'a pas que ça à faire. Mais enfin, si, ça
me plairait beaucoup. Mes enfants jouent du piano, mais pas moi. Malheureusement.
Est-ce qu'ils jouent debout ou assis?
Oui. Non, mais debout ou pas, oui, mais
non, mais alors, monsieur, voilà, vous êtes l'élève. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que vous vous amusez quand vous prenez des...
Oui, absolument.
Avec Pierre, on s'amuse
absolument,
quand même.
Et on s'amuse dès la première leçon.
Il est totalement fou, vous savez. Ah, vous avez... Bon,
peut-être,
d'accord, ça va.
Peut-être. Il n'empêche qu'on s'amuse réellement, et ça, dès la première leçon. Et effectivement, vous ressortez déjà avec une mélodie de votre choix, adaptée à votre niveau.
Oui, absolument.
Très, très vite, on...
Mais monsieur a déjà 6 mois de piano, maintenant, bon, ça...
Mais
ça
plus,
va,
ça. Ça fait 1 an, maintenant.
Oui, mais enfin, il y a eu les vacances scolaires et tout ça.
Ah oui.
Mais maintenant, il pourrait arrêter en juin. Alors, Quelles ont été les difficultés ?
Les difficultés sont contournées et résolues en fait dans un cadre qui est le cadre de la pratique. On ne fait pas de théorie.
Oui, on ne fait pas de théorie.
Pas de solfège en particulier, ni de théorie. Non. Et tout s'inscrit finalement dans un déroulement d'exercices pratiques adaptés à ce que vous demandez.
Alors, choisi par
oui, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un certain temps, de quelques mois en fait, peut déjà arriver soi-même à harmoniser des mélodies de son choix.
Oui, qu'on a écouté. Alors, ça, pour retrouver la mélodie à la main droite, ça c'est facile. Enfin, c'est relativement facile. Mais la main gauche, moi j'ai un système qui permet de trouver tout de suite quel est l'accompagnement qu'il faudra pour la mélodie dont vous parlez.
Absolument, et ça, je dois dire finalement à très moyen terme, puisqu'au bout de 3 ou 4 mois, j'ai pu faire personnellement, sans être très très doué, il faut quand même l'avouer, j'ai quand même pu harmoniser des valses assez.
En tout cas,
ça veut pas dire grand chose parce que quand on a envie de faire quelque chose, qu'on entend le piano et qu'on joue réellement, ça donne le courage de répéter une demi-heure par jour et quand on arrive à la leçon suivante, on est content de jouer le morceau qu'on a eu à la leçon d'avant. Alors à chaque leçon, il y a un morceau, et si bien qu'au bout de six mois, vous avez un répertoire de 30 ou 40 morceaux et plus avoir compris comment on écoute un morceau plus tard à la radio ou ailleurs et comment on l'harmonise et comment on le reproduit. Si bien qu'on le fait de soi-même, on n'a pas besoin de partition. La partition,
ils vont
c'est
bien
pour les autres.
Il est assez enthousiaste.
Non,
alors maintenant, il faut donner un numéro de téléphone où on peut vous joindre.
Eh bien, on peut me joindre au 06 67 33 29 72 06 67 33 29 72 ou alors vous envoyez un petit mot à Serge de Becquette à la radio qui vous donnera mon téléphone.
Voilà. Vous pourriez peut-être rappeler votre nom ?
Pierre-Marie.
Pierre-Marie. Voilà. Pierre-Marie.
Je voudrais lire un message de... Il n'est pas signé, mais je pense que c'est Sherlock Holmes. Vous coupez le temps de parole de l'admirable Bruno Gollnisch, Monsieur le Président. Vous êtes président.
Non, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup accaparé le micro, au contraire.
Pour donner le micro une fois de plus, à un improbable professeur de piano. Je vous garantis qu'il n'est pas improbable, Jordan, parce que j'ai la preuve de son existence. Quels sont ses liens de parenté avec Madame de Becquette ? Hein ? D'abord, tous les gens que j'invite sont des beaux-frères, des belles-sœurs, des cousins, des cousines, pensez bien.
Nous deux,
bien sûr.
Je suis très bien traité par Radio Courtoisie, et la preuve, c'est que je reviens lundi avec mon ami Michel de Rostolan.
Ah ben, je suis très content de savoir que vous venez lundi, mais je suis encore plus content d'avoir doublé Rostolan.
Voilà.
Merci Bruno. Merci Pierre, merci monsieur de nous avoir apporté votre témoignage. Et puis pour répondre à la question, je vais vous dire, on n'a aucun lien de parenté avec le professeur de piano, sinon que dans une autre vie, j'ai été son frère.
Peut-être. Enfin, ça n'empêche que vous jouez depuis les leçons que vous avez reçues.
Voilà.
Vous jouez authentiquement. Et...
Oui, enfin, ça, c'est pas l'avis de mes voisins, mais bon.
Chacun a ses goûts.
Si vous permettez, il y a une chose que vous avez oublié de dire, mais ce qui est intéressant, c'est votre pédagogie plus particulièrement.
Oui, mais
la pédagogie, c'est l'instrument qui permet de s'adapter à l'élève, mais vous le faites particulièrement.
Oui, absolument.
C'est très
fonction des désirs des uns et des autres, ce qui est quand même très agréable.
C'est l'approche. Oui,
merci, monsieur.
Il y a une façon d'amener les choses et puis de faire plaisir à celui qui fait un effort. Il sent que c'est vrai.
On a compris. Je vous assure qu'on a compris.
Bon, d'accord.
Et j'en témoigne. Bon, je vais vous demander de laisser le micro à nos invités.
Voilà.
Et pendant ce temps-là, Patrick va dire les mille raisons que vous auriez, mon cher Pierre, que vous ne faites pas, de vous abonner au Libre Journal. Qui manque d'abonnés, vous le savez.
Ben oui, ça, je vais le faire.
Je vous salue nonobstant. Vous voyez, alors, c'est pour vous dire à quel point je suis désintéressé, il n'est même pas abonné.
Je téléphone à Bruno Gollnisch qui va peut-être prendre des... Qui aura peut-être le temps de prendre des leçons de piano.
Certainement. Juste après la campagne. Juste après la campagne.
Oui, quand il sera Premier ministre.
C'est sérieux, hein.
Quand vous serez Premier ministre, vous aurez le temps de prendre des leçons de piano.
Nous téléphone après la campagne.
Au revoir.
Entrez, messieurs. Alors, je reçois maintenant mes invités de la deuxième partie de l'émission, Monsieur Savary, qui qui est éditeur, monsieur Régis Germain, qui est héraldiste, et monsieur Bertrand Aquin, qui est écrivain, et on va parler, mais dès que Patrick aura fini d'exposer les innombrables raisons qu'on a de s'abonner au Libre Journal, la première étant que c'est le meilleur moyen de le lire.
Patrick Goffman, bonsoir. Serge de Beckett, je salue aussi vos auditeurs, vos auditrices dans le monde entier et au-delà. Et je leur suggère pour une fois de tourner la télé contre le mur, puisque l'heure fatidique du 20h approche, et de rester avec nous, de rester avec moi d'abord et avec vous-même, avec vos invités. Avant de parler du Libre Journal à tout seigneur, tout honneur, je vous demande la permission de consacrer 2 minutes à nos chers confrères de Libération, dont le conseil d'administration s'est réuni aujourd'hui pour examiner, pour une énième réunion de la dernière chance, il s'agissait d'examiner le plan de refondation d'Edouard de Rothschild. Sartre se retourne dans sa tombe, je présume.
C'est bien fait pour lui.
Et les milliers de maoïstes qui ont souscrit à fond perdu pour ce journal indépendant des banques et des patrons ainsi que des flics pendant des années se retournent dans leur HLM où ils mangent du poulet aux hormones. Ça ne s'arrête pas là. Il faut pas trop rire puisque l'imprimeur de Libération menaçait il y a quelques jours de cesser d'imprimer ce journal.
Il a démenti, hein.
Il a démenti. Disons, vous faites bien de me corriger. Le bruit a couru.
Voilà, c'est ça.
Que l'imprimeur de Libération exigeait le paiement cash de plusieurs millions d'euros, faute de quoi il cesserait d'imprimer. Il a démenti, naturellement.
Et je vois pas pourquoi il réclamait d'être payé, ce type. Il devrait être tellement flatté d'imprimer Libération.
Et pourquoi il fait valoir une misérable créance de 2 millions d'euros, alors que Libération s'achemine vers un passif de 13 millions d'euros, plus d'un million d'euros par mois, uniquement pour l'année 2006, sans parler des pertes des années précédentes. Alors, on a connu un moment d'espoir, puisque il fallait du changement. Et donc, la direction mao-bancaire ayant quitté la rue Béranger, on s'acheminait, pensait-on joyeusement, vers une direction trotsko-bancaire. Je sais, Serge, que vous écartez cette nuance politique d'un revers de la main, mais moi, ça m'intéresse beaucoup.
Oui, bien sûr,
et je pense qu'il y a quelques...
On voit bien que dans la façon dont tu dis mao-bancaire, il y a un mépris qui n'existe pas dans la façon dont il dit trotsko-bancaire.
En d'autres termes, le camarade Julie étant retourné à la mine, dont vous savez qu'il l'a fréquenté pendant quelques semaines dans les années 70, on allait voir arriver le camarade Plenel. Ce garçon de culture trotskiste, nous a-t-il expliqué un jour, qui a conduit le monde à n'avoir, lui, que 10 millions d'euros de pertes pour 2 ans, c'est-à-dire la moitié des pertes de Libération. Et Plenel, d'ailleurs, arrivait avec un programme absolument génial. Permettez-moi d'en lire 5 lignes. Le programme suivant, un journal resserré, sélectif dans ses informations... Je ris, mais c'est nerveux. Qui renouerait avec son identité de gauche en jouant à fond la carte de l'actualité chaude. C'est proprement génial, à mon avis. Hein. Je suis un modeste acteur de la presse.
Le croisement de détectives et de l'humanité.
Voilà. Mais bon, j'ai quand même assez d'expérience pour apprécier ce programme proprement génial, dont je pensais qu'il était soutenu par Edouard de Rothschild. Mais que lis-je dans la même coupure des échos de lundi 16 que j'ai sous les yeux ? Ce projet se heurte néanmoins à un obstacle sérieux depuis le début. Edouard de Rothschild manifeste des réticences à travailler avec Edoui Plenel. Donc là, je suis un peu perdu et très très inquiet, très pessimiste. Voilà. Donc
j'avais l'air très inquiet, voilà. Pessimiste.
Alors Libération donc descend, ils sont tombés à 136 000 exemplaires. En envoyant, par exemple, un paquet gratuit tous les matins à l'école de police supérieure de Gif-sur-Yvette, où ce paquet sert de ballon de football, d'après mes informations personnelles. Mais on est en train de les croiser dans l'ascenseur, parce que le Libre Journal, lui, monte.
Ouais.
Il monte doucement.
Je crains fort qu'il descende plus vite qu'on monte.
Il monte lentement, parce que, comme vous venez de le faire remarquer, il y a des gens que vous invitez souvent ici, et à qui ça donne pas l'idée de s'abonner, c'est quand même dommage. Mais Bruno Gollnisch, je crois, est abonné, réabonné.
Abonné de la première heure, même.
Et donc, nous montons...
C'est d'ailleurs pour ça que je l'invite.
J'avais compris, les auditeurs avaient compris. En dehors du cousinage.
C'est un cousin, bien sûr.
Donc nous montons doucement, mais nous montons, et donc ça va nous donner le plaisir prochainement de croiser l'ascenseur descendant de Libération et de leur faire coucou au passage. On a tous quelques amis, quelques parents dans cette noble institution. Alors, le Libre Journal numéro 389 est sorti des presses aujourd'hui. Un message personnel de 3 secondes. Je n'étais pas au bouclage et je dois dire que Serge de Beketch et le Marquis d'Olmeta m'ont suppléé brillamment, parce qu'il y a plusieurs pages qui sont
sans faute.
Non seulement sans faute, mais mieux mises en page que je ne l'aurais fait. Et donc je suis très très agréablement...
Je vais être augmenté.
J'ai failli dire surpris. Oui, voilà, vous allez être augmenté. Alors, maintenant, je dois, pour terminer, avant de donner les références du Libre Journal, je suis obligé, Serge, de vous interpeller, parce que les auditeurs ont l'habitude de m'entendre faire cette promotion imperturbablement, mais là, je suis perturbé. Comment se peut-il, Serge, que votre journal catholique blasphème contre Sainte Ségolène des médias et des sondages, la chevalière blanche, répandent des rumeurs ignobles sur sa vie privée et l'accuse de d'être comme un vulgaire Sarko qui est allé récemment cracher sur la diplomatie française, la politique étrangère française à Washington, et l'accuse d'avoir la célèbre agence américaine Hill & Knowlton derrière elle, et d'accusations assez graves de la part de sa propre famille. Comment est-il possible que vous blasphémiez de la sorte, c'est un peu
déclenche. Mais parce que j'ai craqué là nerveusement, j'ai fait je regrette d'ailleurs déjà, je fais ma repentance, mais le fait est que M. Asselineau, qui fait une série de conférences intitulée « Qui gouverne en France ?», a révélé que la campagne de... Enfin, révèle dans cette conférence que la campagne, non pas la campagne de M. Hollande, mais la campagne de la campagne de M. Hollande, comment dit-on, cornaquée par l'agence Hill & Knowlton. Alors, pour les auditeurs à qui ça aurait échappé, je rappelle que c'est cette agence qui avait monté de toutes pièces le témoignage sur les couveuses, les soldats irakiens vidant les couveuses du Koweït, témoignage émouvant proféré par une infirmière qui était en réalité la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, déguisée en infirmière. C'est les spécialistes du bidonnage intégral. Et ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs. Ils disent notre activité, c'est la manipulation politique. Voilà. Donc c'est ces gens-là qui seraient derrière la brillante prestation de Madame
Royal,
et qui me fait beaucoup rire cette prestation, parce que on l'a vu hier soir à la télévision, et je dois dire que ça confirme l'édito que j'ai fait la semaine dernière. D'une certaine manière, je profite que Bruno Gollnisch s'est esquivé
le républicain,
pour le dire. J'espère qu'elle sera élue, parce que je crois qu'alors là, on va rigoler comme on aura rarement rigolé dans ce pays. Il était temps. Mais là, pour le coup, l'apocalypse va arriver et il était temps.
Alors, j'ai déjà consacré trop de temps à la promotion du Libre Journal, donc je termine en disant que ceux qui veulent nous découvrir gratuitement, nous avons des amis du Libre Journal entretiennent un site où on trouve énormément d'archives et qui s'appelle francecourtoise.info. Ceux qui veulent se procurer ce numéro donc dégoulinant d'informations, de rumeurs odieuses sur la vie privée de Ségolène Royal, dont je ne peux pas faire état à ce micro, et dont je suis donc obligé de réserver la primeur aux abonnés du Libre Journal. Cela envoie donc commande le numéro 389 avec 5 € ou de préférence un carnet de timbre. Ceux qui ont enfin compris qu'il faut que nous aider à monter, c'est aider Libération à descendre, envoie 110 € à l'ordre de SDB, 4 place France Liste, 75 010, Paris.
Merci beaucoup, Patrick. Je signale que dimanche, nous serons dimanche 22, nous serons
à
Villepreux avec Bernard Anthony et toute l'équipe du Centre Charlier,
plusieurs confrères,
de la CRIF, et puis plusieurs confrères présents.
Puisque le thème, c'est justement les rapports avec la presse.
Voilà. Donc, si vous voulez découvrir le Libre Journal, vous envoyez des timbres ou vous venez, c'est encore mieux, ça permettra de faire connaissance, à Villepreux, qui est un bel endroit, au domaine de Grand Maison. Vous nous quittez, Patrick.
À moins que vous me reteniez très fort, mais non, j'avais l'impression que le studio débordait d'abord.
Le studio déborde un peu, mais surtout, je ne voudrais pas vous priver du sommeil dont vous avez besoin. Attendez, la brillante prestation que vous venez de faire.
Je vous remercie beaucoup. Et étant donné que je me lève aux aurores demain pour retourner à l'usine.
Ah, mais c'est chez les gens qui vous payent.
Pour doubler ma paye, voilà, tellement je suis avaricieux.
Bon, ben faites comme vous voulez. Merci en tout cas d'être passé.
Merci Serge.
Alors, maintenant nous nous trouvons en présence, alors je signale aux auditeurs, comment dirais-je, délicats, que nous allons entrer dans le domaine du gnosticisme le plus gnostifiant, et par conséquent tout le monde aux abris. J'ai invité ce soir trois personnes pour qui j'ai, qui sont presque des parents, parce que j'ai une grande affection pour eux.
Encore des cousins.
Encore des cousins.
Bon frère.
Bon frère, belle sœur. Alors, il s'agit de Jean-Marc Savary, qui est éditeur et qui publie une magnifique revue. Allez, alors, j'en ai des envies, qui s'appelle Liber Mirabilis, le livre admirable, qui est un peu dans le fil de ce que faisait... jadis Planète. Un tout petit peu. C'est plus spiritualiste que Planète.
Oui, mais c'est une filiation.
Mais c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire cette espèce de passion pour le réalisme fantastique. Bertrand, mettez-vous là, s'il vous plaît. Régis, mettez-vous là. D'intérêt pour le réalisme fantastique, qui est une des choses qui rend la vie supportable. Hein, oui. Et alors, il est également, Jean-Marc Savary, président du Centre européen des mythes et légendes.
Oui.
Ce qui nous enthousiasme et nous réjouit parce que ça parle de tout ce qu'on aime. Ça parle de notre vieux fond légendaire, du vieux fond légendaire européen, français, anglais, allemand, etc. Ça parle de nos traditions, de nos coutumes, de notre paysage, de notre architecture sacrée, de notre architecture profane aussi. C'est vraiment bien fait. Elle est belle, cette revue, elle est élégante, elle est passionnante. Bertrand Daquin, eh bien, vous le connaissez puisqu'il est déjà venu dans cette émission. Vous l'avez entendu, peu d'ailleurs, mais vous l'avez entendu quand même.
C'est aux auditeurs que vous vous adressez.
Ouais. Non, c'est pas à vous, Bertrand. Non. Je suis pas fou à ce point-là. Je suis un peu schizophrène, mais pas complètement.
D'accord.
C'est-à-dire que je sais que vous êtes vous, et que donc vous vous connaissez un petit peu. Alors, Bertrand Daquin a écrit un livre extrêmement fort. Mais quand je dis extrêmement fort, parce que c'est comme un alcool fort, on n'en sort pas intact. Il s'appelle « Ce soir, l'Apocalypse, il était temps », qui, contrairement à ce que certains font semblant de croire, n'est pas un livre de mages, francs-maçons. Ça n'a rien à voir, c'est tout simplement un compte-rendu de lecture des textes sacrés. C'est vrai ?
Absolument,
c'est ça.
Oui, bon.
Et puis alors, Régis Germain, je vous ai dit tout à l'heure, qui est un personnage... alors lui, on a l'impression qu'il est sorti directement d'un livre de Jean-Marc Savary, parce que physiquement, c'est une espèce de colosse. Mais pas colosse dans la hauteur, mais colosse dans l'attitude. Et pardonnez-moi, Régis, de le dire comme ça, mais pour ceux qui ont vu le film Le Seigneur des Anneaux, le nain du Seigneur des Anneaux... Non, je ne dis pas que vous êtes un nain, mais qui donne une impression formidable de puissance. Et c'est également... Alors, il a une belle barbe, avec une magnifique moustache, que j'envie, mais que je n'égalerai jamais. Et il est vêtu dans un style un tout petit peu médiéval.
C'est dommage qu'il n'ait pas rencontré le baron de la semaine dernière.
Oui, ils auraient fait un... Je me demande si c'est pas le même, d'ailleurs. Vous n'êtes pas venu la semaine dernière sous les traits d'un baron... Du baron Saltimbanque, qui est un personnage aussi intéressant, qui a un peu le même accent que vous, d'ailleurs. Et alors, Régis est donc héraldiste, il est fondateur du musée du Blason. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un lourd secret, c'est qu'il a inventé le pastis bleu. Ça m'a émerveillé quand il m'a raconté ça, l'aventure du pastis bleu. Donc je lui demanderai d'en parler brièvement. Mais d'abord, je demande à Jean-Marc, j'ai parlé de, à ma façon, du Liber Mirabilis, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez à votre façon, parce qu'il y a un journal, il y a une association, il y a une revue, il y a une association, il y a des collections. Oui. De livres. D'où ça vient, ça? Parce que vous êtes tout jeune en plus, hein.
Vous
êtes un jeune homme.
Je suis un
jeune
homme.
Pour y être mon fils, pratiquement.
Ah oui.
Si j'avais commencé tôt.
Mais j'ai fondé le centre il y a 21 ans, malgré tout. Donc j'étais encore plus jeune homme quand j'ai fondé ça.
C'est parti au départ d'une envie personnelle que j'avais, puisque j'étais interpellé par tout ce qui était légendaire et mythologique, tout ce qui était nos racines en quelque sorte.
Il faut dire que vous vivez à Carcassonne, au pied, oui. au pied des remparts.
Enfin, aujourd'hui. Mais c'est vrai que je me suis arrangé pour être près des remparts de Carcassonne. Je suis en plus dans une île, bien qu'assiégée souvent. Mais c'est vrai que j'ai toujours cet appel du légendaire. Et j'ai un petit bonhomme qui a 6 ans aujourd'hui, qui a sa tenue de chevalier, qui vit là-dedans. Donc il y a un atavisme. Et c'est vrai qu'à l'époque, les réponses que j'avais par rapport à la quête légendaire étaient plutôt mince. Alors j'avais lu quelques auteurs qui m'intéressaient et je n'avais qu'une envie, c'était de les rencontrer. Donc mon idée, ça a été de créer, puisque c'était à l'époque des débuts des salons du livre, de créer un salon du livre, de réunir ces gens-là, puis je me ferais un grand plaisir, je les rencontrerai. Après tout, on ferait ça une fois et c'était une occasion rêvée. Il fallait une structure, donc on a monté l'association. Et je ne savais pas dans quel engrenage j'allais mettre mes doigts, puisque de fil en aiguille, le salon a eu un grand succès, a appelé d'autres salons. Puis on nous a réclamé un peu sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'on a fait des manifestations un peu partout. J'ai même monté le musée d'alchimie pour Philippe de Villiers dans le château de Tiffauges.
Tiffauges qui est une haute demeure alchimique.
Qui est une haute demeure d'alchimie grâce à Gilles de Ré. Enfin grâce, bon, Gilles de Ré est un personnage un peu particulier. Je crois qu'il faisait une alchimie tout à fait particulière, mais on a redonné...
Il y a du bon et du mauvais chez lui.
c'est moins qu'on puisse dire. Et puis, de là aussi se sont créées des nécessités, à savoir que on a les auteurs que l'on fréquentait nous disaient, ben écoutez, j'ai une bibliothèque assez extraordinaire, mes enfants s'en fichent, les bibliothèques à qui je propose ça n'en veulent pas. Bon, évidemment, un fonds légendaire et de mythes, ça n'intéresse strictement
pas
personne,
évidemment.
Ça serait du rap, mais non. Alors on s'est dit, il faudrait peut-être créer un lieu pour accueillir ces bibliothèques. On a démarré avec, je crois, une bibliothèque de 400 livres au départ. On en a plus de 8000 aujourd'hui, qui sont bien sûr à la disposition des adhérents. Évidemment, c'est une association, je tiens à le préciser, qui est subventionnée par personne, parce que c'est du pseudo-culturel forcément, donc il a fallu trouver les lieux, il a fallu rentabiliser l'opération pour qu'on puisse accueillir les livres, faire de l'édition, etc. Donc tout tient grâce, comme Radio Courtoisie, grâce aux adhérents, grâce aux gens qui nous soutiennent. Pour aller un peu plus vite, j'ai donc créé également donc la revue, qui est un trimestriel, qui reprend les travaux de tous les participants, conférenciers, écrivains, etc. Une fois par trimestre, donc nous prenons des thèmes particuliers à chaque numéro, et on essaie de faire le travail le plus honnête possible. Donc je vous remercie pour la description que vous avez fait de cette revue. On y met tout notre cœur, en tout cas, on en est maintenant à 41 numéros. Et puis des collections d'éditions, alors d'éditions de livres historiques, sur le celtisme, etc., que nous avons pu sortir, mais également une ouverture que je souhaitais, c'est-à-dire le légendaire moderne, puisque dans tout ce qui est fiction actuellement, ou légende de science-fiction, on fait appel aux auteurs américains, les éditeurs français font appel aux auteurs américains, parce qu'il est bien connu que tout ce qui vient de là-bas est bien meilleur que chez nous, alors qu'il y a des auteurs français qui ont un fonds, qui s'appuient sur un légendaire qui nous appartient et qui font un bon travail. Donc notre but, ça a été de faire connaître ces auteurs, et je publie régulièrement des auteurs, des jeunes auteurs de fiction, des illustrateurs. Voilà, et puis là, je vais dire, mais ça c'est une autre histoire, comme dirait le poète. Maintenant, il y a des grandes maisons d'édition qui me demandent de préparer des collections dans ce même esprit. Et ça, oui, je m'en réjouis.
C'est une remarque que j'allais faire. Ouais. Il semblerait qu'en ce moment, ce genre de sujet intéresse de plus en plus. Suscite de plus en plus de romans, de collections, tout ce qui relève du fantastique, du légendaire. Et je vois par exemple dans les librairies, il y a eu un effet positif d'un bouquin qui est une cochonnerie à peu près illisible d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas pu le finir. C'est le bouquin le Da Vinci Code. Il a donné un élan à une littérature un peu décalé, comme ça, et on voit sortir des bouquins qui sont naturellement pas la reproduction de Da Vinci, mais qui ont un peu la même ligne littéraire ou éditoriale, qui consiste à essayer de trouver dans l'actualité des chemins qui ramènent à nos traditions, à nos légendes, à nos coutumes et notre espace sacré.
Je crois que le monde moderne n'a eu de cesse que de couper les racines des hommes, et il y a donc une soif, une quête de nos sources, de nos racines. Et c'est vrai que l'histoire du Da Vinci Code est quand même assez extraordinaire, parce que c'est une histoire abracadabrantesque, mais qui s'appuie sur des éléments qui intéressent le public qui n'a plus de repères. Alors, ils font tête baissée là-dedans. Donc, je crois que reprendre justement les grands mythes anciens, qui ne sont pas forcément lisibles, et pour cause, par nombre de lecteurs, et notamment les jeunes, parce que c'est les jeunes que nous cherchons, les adapter et leur redonner ce message au travers de textes qu'ils peuvent comprendre, et donc les reconnecter avec nos traditions, avec nos civilisations, avec nos racines, c'est un travail très important. Et je crois que c'est pour ça que quelque part, bon, c'est presque une bonne chose que ce Da Vinci Code ait eu cet impact, parce que même les éditeurs industriels, les gros éditeurs, sont obligés de s'intéresser au monde du mythe, et le mythe, petit à petit, commence à gagner du terrain. Alors, il faut accepter. Il y a eu également, parmi les grandes épopées, le mythe... Le mythe arthurien, mais je parle dans le monde moderne, dans le cinéma, la Star Wars, la Guerre des Étoiles.
Oui, c'est une transposition.
C'est une transposition extraordinaire, avec les épées qui sont devenues des épées laser, avec la quête du bien et du mal. Donc, et ça, c'est un film qui a interpellé des générations et des générations. Donc il y a vraiment une quête du sens, et une quête des racines, et il nous appartient maintenant, nous, d'essayer de réadapter ça au monde moderne, enfin à la mentalité moderne, pour ramener, je dirais, nos congénères un peu à nos racines, et à leurs racines, et à leur montrer nos traditions.
Je me demandais, j'avais l'intention de vous poser la question, qu'est-ce qui peut rassembler Jean-Marc Savary, Bertrand Aquin et Régis Germain, et puis vous venez de donner la réponse, parce qu'au fond, vous Bertrand, le travail que vous avez fait sur les textes sacrés, c'est aussi une façon de retourner aux racines des textes, à l'origine, absolument, au fond des textes. Et Régis, c'est pareil avec l'héraldique.
Je suis un expatrié, j'ai une autre vision, ça fait 50 ans que j'habite hors de France. Mais je me rends compte, le problème il est partout. Il y a une incohérence dans le comportement des gens qui ne sont pas. Aristote disait, si vous voulez comprendre l'actualité, remontez aux origines. D'où la notion d'étymologie aussi également. Et j'écoute autour de moi des inepties, mais vraiment des choses énormes, même que ce soit sur l'histoire. Alors c'est un peu de leur donner des éléments de recentrage. Bon, c'est alternatif, comme Manic Lamé, entre l'historiquement, le politiquement, le religieusement correct et l'alternatif, parce que dans tout ce qui est correct, il y a quand même un côté inquisitorial, il y a un côté... On vit une époque où il faut quand même aller retrouver les sources qui sont perdues. Lorsque Jean-Marc Savary, et c'est mon contact avec la France, je l'ai connu par hasard, il n'y a pas de hasard, non, il a monté ça. C'est assez extraordinaire, parce que lorsque nous nous retrouvons tous les mois, nous avons des réunions avec différents conférenciers et tout... On est très différents. Les gens, il y a des gens qui sont alchimistes. Moi, l'alchimie, c'est une voie que je ne saisis pas, mais j'admets qu'elle existe. À partir de là, cette mise en commun permet à chacun, parce que je suis en train d'écrire un deuxième ouvrage, on va pas en parler, mais ça sera le dernier. Je sais pas vous en France, mais en Espagne, je suis affairé dans les gens qui m'entourent, la bonne société. Mais c'est d'un matérialisme total. Il n'y a plus personne qui ne croit rien.
Il y a cette dimension de matérialiste. Et il y a une chose qui me frappe maintenant de plus en plus, c'est une espèce de, employons le mot, de méchanceté qui est en train de s'installer dans les relations entre les individus. Et quand je dis la méchanceté, c'est pas ce que je fais moi quand je pique une colère, c'est pas ça, mais une espèce de méchanceté vicieuse. Je prends l'exemple de ce que j'ai lu tout à l'heure. J'invite régulièrement Pierre-Marie, le pianiste, parce que c'est un personnage formidablement pittoresque, il est drôle comme tout. Puis en plus, il a une méthode qui marche. Bon, alors, je sais que ça amuse les gens, ça leur fait plaisir, certains auditeurs, etc. Et vous avez la vilaine bête, le cafard, qui vient et qui dit « Est-ce que c'est pas parce que c'est un cousin ?» Bon, c'est gratuit, c'est méchant, c'est totalement gratuit, ça sert à rien. Et je parle de ça parce que quand la première fois qu'on a fait l'émission, on a parlé de votre livre, Bertrand, l'Apocalypse, et pour ce soir, il serait temps. J'ai eu des reproches comme ça. Alors d'abord, il y a naturellement une immense majorité de gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la librairie France Livre, ils ont acheté le bouquin, puis ils l'ont lu. Bon. Et après ils m'ont dit, formidable, ou ben non, on n'est pas très d'accord avec ça, etc. Mais il y a ceux qui n'ont pas acheté le bouquin, qui n'ont pas voulu en entendre parler, enfin qui en ont entendu parler, et qui immédiatement ont conclu que tout ça était un truc gnostique, antichrétien, tordu, enfin je sais pas. Bon, il y a toujours cette espèce de soupçon de crapulerie qui pèse, qui est, comment dirais-je, colporté par des gens à qui on fait aucun mal d'ailleurs, parce que une radio c'est quand même un outil formidable. Si on n'a pas envie d'écouter, on tourne un bouton et ça s'arrête, tandis qu'un emmerdeur qui est chez vous, vous pouvez pas l'arrêter, il faut le jeter par la fenêtre, c'est très ennuyeux. Donc je vois pas ce qu'ils peuvent nous reprocher, et le bouquin surtout sans avoir lu le livre.
Oui, mais, en général, vous voulez dire quelque chose, c'est vrai. Il y a, je sais pas si c'est de la méchanceté, mais il y a une agressivité qui est en train de, et une intolérance. Au nom des grands principes, il y a une intolérance qui s'installe partout. Mais c'est pas que ici en France, mais je vous parle, moi, la remarque, c'est pareil. Et il arrive un moment où, et c'est peut-être que le fait que le Centre européen des mythes et légendes nous permet au moins entre nous de nous exprimer, c'est qu'il arrive un moment, mais on fait la carpe, on ne dit plus rien, ça sert plus à rien. Quand je vois Bruno Gollnisch, quand je vois le Front National, qui, ça fait des années, et, excusez-moi, je vais parler vulgairement, ils en prennent plein la gueule, parce que c'est courageux quand même, et tout. Oui. Mais non, ça, ils ont raison, ils cristallisent, et je leur souhaite, et même si je voterai pour eux, toujours, mais je souhaite qu'ils prennent jamais le pouvoir, ils vont en prendre plein la gueule, au moins qu'ils remuent les autres. Mais je crois que, je l'ai dit dans ce soir-là,
les autres aussi.
Oui, collectivement, il n'y a plus rien à faire, je crois. C'est individuellement, nous avons tous une voix. Et collectivement, ça va être excessivement difficile. C'est même pas une explosion qui va se produire, c'est une implosion.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que le travail que fait Jean-Marc, le travail que vous faites vous avec votre bouquin, ou le travail que fait Régis avec sa passion pour l'héraldique, c'est aussi une façon de sortir du système en disant finalement il n'y a plus rien à faire, on va s'occuper d'autre chose.
Il n'y a plus rien à faire, on essaie de passer. Vous savez, vous parlez tout à l'heure du code da Vinci, moi je suppose que je n'ai pas eu, non, entendu, ni le 1000%, le 1 pour 10 000 de l'éclat. Mais le problème il n'est pas là. On essaie de rendre ce que nous avons reçu. Et si ça peut profiter à quelques unités, bon, je ne sais pas, comme j'ai dit une fois, c'est pour ajouter quelques éléments qui manquent aux 144 000 élus de Saint-Jean dans l'Apocalypse. Bon, ça ne fait pas beaucoup, hein. Mais le reste, c'est un mystère, le grand problème. Mais qu'est-ce qu'on fait ici dans cette radio? Qu'est-ce qu'on fait sur cette planète? Qu'est-ce qu'on fait? Les gens. C'est pas grave actuellement. Il faut.
Mais 144 000, c'est quand même un chiffre.
C'est un chiffre symbolique, mais nous sommes d'accord.
12 plus 12. C'est la crème de la crème. Donc,
nous sommes d'accord, voilà. Oui. Oui, mais enfin, vu la. C'est curieux. Et là, on va me dire, bon, je sais pas s'il faut parler la gnose, pas la gnose. Ça. Lorsque Guénon, quand même, je ne suis pas un guénonien, a dit que les deux phases, c'était massification suivie de dissolution. Mais nous sommes en pleine phase dissolvante. Hein, c'est, on le voit partout. Je voyais hier, tout à l'heure, en arrivant dans l'avion. Je vois, vous, en France, maintenant, c'est les flics, on les prend comme cible. Mais c'est anormal. Et on admet, c'est la banalisation de la normale. Il y en a toujours eu. Mais c'est la banalisation avec la complicité de nos élites. C'est
pire,
ça qui est terrible.
Que la banalisation, c'est une espèce de normativation. C'est-à-dire, ça, c'est maintenant, les gens normaux, c'est ceux qui font ça. Ceux qui font ce que nous, on fait, on est considérés comme des anormaux. Comment mais vous aimez la France. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? C'est du patriotisme. Vous ne seriez pas nationaliste, par hasard? Si, enfin, vous rentrez
bien.
Mais
anormaux et fiers de l'être, hein, voilà, parce que tout est relatif. Hein.
Voilà notre doctrine. Est-ce que, depuis que vous avez écrit l'Apocalypse, non pas l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, c'est pour ce soir. Non, mon cher Saint-Jean, c'est pas. Je me trompe pas. Depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que vous avez eu de nouvelles confirmations dans l'actualité du bien fondé de.
C'est tous les jours. Attendez, le cheminement, comment dire, au jour le jour, nous sommes tous pris par un existentiel, le temps, les problèmes matériels, la santé et tout. Mais lorsque vous lisez dans le filigrane des journaux, de l'actualité, on le voit, ça se met en place à une vitesse, c'est formidable. Et attendez, moi je ne considère pas l'apocalypse, je ne le prends pas.
Pas du
pour
tout.
Pour moi, l'apocalypse, ce n'est pas une catastrophe, non. C'est la solution. La catastrophe, elle viendra avant. L'Apocalypse, c'est la révélation, elle viendra après. On a fait une assimilation, par exemple, en fonction des descripteurs apocalyptiques, mais ça se voit tous les jours. Ça, et je suis pas un pessimiste, je suis même, bon, je sais plus ce que je suis un hérétique, dans tous les domaines. Mais pourquoi? Parce que ça suffit.
Mais attendez, ils ont pas encore lu le prochain.
Mais le prochain, écoutez, justement, le prochain, il risque même vous de choquer. Je vais vous dire le titre. Ça s'appelle L'Église de Pierre, deux points. Une perversion de l'esprit. J'ai mis un point d'interrogation.
Ah, quand même.
Quand même. Mais tout le monde, excusez-moi, se fait la malle. Même les évêques, même le truc. Et ça crée autour de soi, il y a une angoisse. C'est des gens. Mais essayer de leur redonner, c'est plus un dogmatisme. Il faut quand même essayer de retrouver la vraie foi. Laisser venir à moi les enfants. On nous a mis des dogmes. Bon, c'est sûr, c'est pas l'islam. Mais c'est l'Ancien Testament, malgré tout, ce Dieu du talent. On nous a fait un dogmatisme qu'on retrouve chez les musulmans, qu'on retrouve dans la théocratie israélienne et tout. Mais nous, on n'en est quand même pas maintenant, si vous voulez, oui, parce que comme, excusez-moi, tout fout le camp. Moi, je vois des prêtres, je discute avec des jésuites en Espagne, mais ils n'y croient pas. Je vous jure qu'ils suivent, ils font une vie sociale et tout, mais dans le fond, ni à la présence réelle, c'est arrivé à un tel degré que c'est navrant. Et ça crée des tas d'angoisse. Alors, bon, j'essaie de donner des pistes, je vais pas changer le monde non plus.
Je raconte souvent cette histoire à propos de la foi des prêtres. Dieu merci, pas tous les prêtres, il y a beaucoup de prêtres qui sont vraiment des prêtres et qui croient vraiment à ce qu'ils font. Mais on était à Mayotte et on était allé à la messe. Alors il y avait la messe une fois par mois, là, va. Et ma femme dit au prêtre qui était ambulant, mais alors le reste du temps, comment on fait dimanche prochain? Bah, il dit, c'est pas difficile, vous réunissez et puis vous lisez un morceau d'évangile et vous faites un partage de l'évangile, voilà, c'est exactement. On parle de l'évangile, puis ensuite vous prenez la communion là et vous la distribuez. Ma femme dit, attendez, on va se distribuer la communion entre nous? Il dit oui, bien sûr, c'est plus simple. Je dis, enfin, alors on va distribuer le corps du Christ comme des bonbons. Il lui dit, comment ça, le corps du Christ? Ben, il dit oui, enfin, les espèces consacrées, c'est le corps du Christ. Et il lui dit, ah bon, vous croyez à ce truc-là, vous?
Oh, non, mais voilà. c'est oui.
C'est formidable, non?
Non.
C'est formidable. Et c'est le même qui disait, on disait, mais vous évangélisez un peu les musulmans? Après, oh là là, pas de question. Alors, bon, dites donc, ça ferait que leur attirer des emmerdements. Alors effectivement, quand on rencontre des prêtres comme ça, on se demande ce que ceux qui n'ont pas la foi chevillée à l'âme peuvent penser. Hein. C'est difficile à vivre. Régis Germain, alors oui. Vous, c'est
l'héraldique. Moi, c'est l'héraldique.
Mais pourquoi cette passion?
C'est parce que, si vous voulez, depuis toujours, avec mon épouse, nous avons aimé tout ce qui est symbolique. Et ce qui est symbolique, en particulier dans la religion. Or, le symbole, par définition, c'est le blason. D'ailleurs, si vous faites l'analogie, symbole, c'est ce qui réunit par opposition à diabolique,
qu'est-ce qui divise.
Donc, ce symbole va nous servir non seulement à identifier les individus, parce que chacun va avoir son blason, mais ensuite va nous permettre de traverser le temps et l'histoire. Parce que chacun, possédant ses armoiries, va y consacrer son honneur, va y mettre sa vérité, va y mettre sa pensée. Le blason même, lui-même, est le signe de l'individu. Puisque un blason, ou le blason parfait, si vous voulez, il serait transparent, il est de cristal. On n'a rien à y mettre. Le blason, à partir du moment où il va y avoir une figure, eh bien, il a un message. D'ailleurs, on le voit dans le film L'Excalibur. Vous avez un des chevaliers de la table ronde qui va se saisir d'une porte en guise de bouclier. Or, c'est là-dessus comme ça, Marie. Et là, par ce symbole, il donne bien ce qu'est le blason. Quelque chose qui enferme, qui protège, mais qui annonce.
Qui manifeste aussi.
Qui manifeste. On a combien d'exemples où, au vu de blason, vous avez des combats qui se sont arrêtés parce que la personne armoriée qui était en face était vraiment très puissante et donc intimidait énormément celui qui était agressé. Voilà.
Alors, il y a une erreur qui est assez couramment commise, et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez, c'est l'erreur qui consiste à croire que le blason est réservé à l'aristocratie.
Oh, pas du tout. Alors, non seulement j'aime l'héraldique, mais je l'aime justement parce que c'est la chose peut-être la plus libre qui soit. Il n'y a pas de loi, sauf celle de ne pas mettre des émaux sur des émaux et des métaux sur des métaux. La seule et unique raison, c'est parce que de loin, ça se voit pas. Mais sinon, tout le monde peut avoir son blason. Alors,
qu'est-ce que c'est que des émaux et des métaux?
Alors, les émaux, c'est que les blasons se divisent en trois parties. Vous avez les métaux, qui sont l'or et l'argent. Vous avez les métaux, les émaux, qui sont le rouge qu'on appelle gueule, le bleu qu'on appelle azur, le vert qu'on appelle sinople, et puis vous avez les fourrures. Alors les fourrures, vous avez l'hermine, vous avez le vert, et puis vous avez un émail qui est aussi une fourrure, qui est le sable, la couleur sable. Alors sable, c'est noir, mais si on l'appelle sable, c'est que ça vient de zibeline.
Ah,
par altération du mot, c'est devenu Zabel qui a donné Zibeline. Et donc,
vous avez vu qu'à côté de vous,
oui, j'ai quelqu'un qui connaît,
qui possède parfaitement ça, récite en même temps la leçon, c'est drôle.
Et alors donc, toutes les personnes, tout le monde peut avoir son blason. D'ailleurs, lorsqu'on fait une étude, ben vous avez toutes les corporations leur blason. Mm-hmm. À cette époque merveilleuse où, au lieu d'avoir le suffrage universel, on avait les patrons, les cinq patrons des corporations, on disait le meilleur et ainsi de suite. Nous avions une société pyramidale. Eh bien, tout le monde avait son blason et on le retrouve dans les corporations, on le retrouve dans les universités, on le retrouve chez les simples particuliers. Et ce n'est pas un privilège nobiliaire du tout.
Ça n'est pas seulement français en plus, ça n'est pas, même pas seulement européen.
C'est mondial.
Il existe quelque chose de comparable au blason au Japon?
Ah oui, au Japon, il y a ce qu'on appelle le mon, c'est-à-dire le blason, et il y a une héraldique extrêmement riche. Ouais. Oui, oui, d'ailleurs, si vous voulez, après, je vous montrerai celui de mon épouse, par exemple.
Ah oui, volontiers. Voilà.
Mais simplement, c'est un... Et tout petit peu différent en ce sens que ça ne joue pas ou très peu sur les couleurs. On peut dire que tous les monts peuvent s'exprimer en noir sur blanc, voilà, pratiquement. Mais alors avec toutes sortes de figures stylisées, végétales, animales, géométriques et autres. Il y a une héraldique japonaise très importante.
Voyez-moi, quand je fais une exposition de blason, j'ai une série, les grandes villes du monde. Et bien, j'ai le blason de Tokyo, j'ai le blason de Kyoto, j'ai le blason de Séoul, et effectivement, ils sont tous effectivement sur fond d'argent avec un dessin de sable.
Mais il faut dire aussi qu'il y a, y compris au Japon d'ailleurs, aujourd'hui, un peu les mêmes déviances que celles qu'on constate en Occident, c'est-à-dire l'abandon très malheureux, je trouve, de l'héraldique pour des logos qui ne sont plus enracinés. Les blasons sont ceux des familles japonaises, mais au Japon, chaque famille a son blason. Le blason est gravé, par exemple, sur les pierres tombales, oui. sur les tombes de famille, et il est porté aussi, notamment par les hommes, sur les parements de leur kimono.
Oui. J'avais posé à Régis la question du blason des villes, parce que tout à l'heure, Bertrand Dakin nous a remarqué qu'il y a cette espèce d'effondrement ce qui a fait notre société, qui a fait notre histoire. Et parmi cet effondrement, cette espèce de dilution des traditions, il y en a une qui est particulièrement visible en ce moment, c'est la disparition des blasons des cités, qui sont remplacés par des trucs grotesques,
débéniables. Écoutez, de toute manière, les héraldistes dignes de ce nom disent que le logo est au blason ce qu'une usine à gaz est à une cathédrale.
Oui, c'est ça.
Bon, c'est ça. Et le grand problème, et à mon avis qui est la cause de tout, c'est que la Révolution française a supprimé la fleur de lys, à un tel point que la France, à l'heure actuelle, n'a pas de blason. Vous réalisez que quand on regarde tous les pays qui se rassemblent, ils ont leur drapeau et leur blason. Regardez celui de l'Espagne, il est splendide. La France, nous n'en avons pas. Nous avons eu une réunion des héraldistes de France au château de Vincennes il y a quelque temps. ils ne veulent pas du seul vrai blason de la France, qui est d'azur à trois fleurs de lys d'or. Mais pensez donc, ah non, on a voulu un coq, mais un coq, il faut surtout pas un coq. Vous imaginez, il y a un coq sur les églises. Oui. Ce serait donner un côté religieux au blason de la France. Alors qu'est-ce qu'on va faire?
Alors
il n'y aura pas de blason. Et toutes les villes qui ont un blason, oui, eh bien, ils suppriment les fleurs de lys, oui, qui ont dessus, et ça ne veut plus rien dire.
Parce que le blason, c'est une identification.
Bien sûr.
Et le logo, c'est en fait, le logo correspond à tout cet amalgame, le nouvel ordre mondial, tout le monde,
c'est la dissolution.
Le blason identifiait, voilà, les êtres, les villes, les pays. C'était une géographie sacrée, j'allais dire, en quelque sorte, qui nous permettait de nous reconnaître.
C'est ça. L'héraldique est un rite en ce sens qu'il y a, comme l'a excellemment dit monsieur, qui est bien plus compétent que moi sur le sujet, il y a des règles. Il y en a moins qu'on pense. Elles permettent beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a quand même des règles. Tandis que le logo, c'est la fantaisie du moment. Moi, d'ailleurs, la région Rhône-Alpes, où je suis élu conseiller régional, eh bien, a changé deux fois de logo. Alors, c'est en fonction des fantaisies de cabinets de communication qui facturent leurs services à des prix absolument faramineux.
Je crois que là-dedans, il y a une dimension... une dimension qui est bien bien supérieure aux considérations je dirais de la pub ou même de l'identité, parce que un blason au fond, c'est comme le disait Régis Germain tout à l'heure, c'est une manifestation, mais en même temps c'est quelque chose qui oblige. Voilà. C'est-à-dire que quand on se balade avec un blason où il y a n'importe quoi, un lion par exemple, on peut pas partir en péteux au premier coup de gueule, c'est pas possible. Donc on se sent obligé d'être, au sens où noblesse oblige, blason oblige, on s'est obligé d'être conforme à l'image de son blason. Et pour les villes c'est pareil, quand vous avez une ville qui est, je sais pas, par exemple Pont-l'Évêque, où il y a un pont sur la rivière, bon, le blason ayant immortalisé ce pont, on hésite avant de le détruire pour le remplacer par un souterrain ou par une bretelle d'autoroute. À partir du moment où on supprime le blason, plus rien ne fixe les règles. Et on sent bien qu'à ce moment-là, même les villes deviennent une espèce de conglomérat un peu pâteux, un peu gluant de maisons, on ne sait pas trop. C'est plus du tout des villes, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus d'image. De la communauté humaine.
Une des victoires du Centre des Mythes et Légendes, c'est que nous avons mené bataille auprès de pas mal de communes.
Ah oui.
Et certaines communes ont repris le blason. Rétabli le blason, et il reste la ville de Carcassonne, ça c'est une longue histoire. Mais pas mal de bourgs autour de villages ont repris le blason. Et ça fait partie des combats que nous menons dans le cadre du centre.
Mais il y a une autre chose quand même qu'il faut voir, c'est que, disons, où il y a un espoir merveilleux, c'est que les enfants adorent les blasons. Ah oui. Nous faisons
le petit Romain. Ça m'arrive. Ouais. Il faut, je dis aux auditeurs, parce que c'est quand même pittoresque, il a quoi, 5 ans?
6 ans.
Et on voit cet enfant, quand je suis allé voir Jean-Marc dans sa maison, qui est d'ailleurs incroyable, il faudrait pouvoir la raconter, cette maison, parce que c'est une île au milieu d'une île. C'est-à-dire, il y a une île au pied des remparts de Carcassonne, que naturellement une municipalité de cinglés, il faut bien dire le mot, pardon, Jean-Marc, j'espère que je ne vais pas vous fâcher avec une municipalité de cinglés, a transformé en parking géant. Bon. Alors tout ça est rasé complètement, c'est épouvantable, c'est un cauchemar. Et puis au milieu de ce cauchemar, il y a un truc incroyable, c'est une oasis avec des arbres magnifiques, des arbres où il y a des écureuils, alors des étangs avec des canards, un jardin avec des coqs. C'est un endroit fabuleux, et on passe par une petite porte qui est enfouie sous le lierre, et puis qu'est-ce qu'on trouve? Un enfant de 6 ans habillé en chevalier qui vous accueille en brandissant sa coliche marde et son écu. Alors c'est quand même assez surprenant. Donc après on entre dans une maison qui est encore autre chose, avec deux marches pour changer de pièce à chaque fois, des escaliers partout, c'est vraiment un lieu complètement magique. Enfin, moi j'étais
c'est mythique et légendaire.
Ah oui, mythique. secrétaire général. Et donc, on voit, c'est vrai que cet enfant, comme beaucoup d'autres enfants d'ailleurs, est complètement saisi. Alors là, il est porteur du blason, et il est porté par son blason aussi.
Et alors, ce qu'il faut penser, qui est capital, c'est qu'à travers le blason, on peut faire l'enseignement de la grande valeur essentielle du porteur de blason, c'est le chevalier. C'est la notion de chevalerie, qui est non plus une interprétation, comme on le voit souvent, en disant « ce monsieur a un esprit chevaleresque », alors qu'il n'est pas chevaleresque du tout, il a beaucoup de flair-pé, c'est un monsieur du monde, ou un acte de courage, ou un acte qui est considéré comme un acte de chevalerie. Or, c'est pas ça. Et nous, on informe toujours les enfants, en leur disant que la chevalerie, c'est une gnose, que c'est un désir de servir, que c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce qui est communautaire, sociétaire, de religion ou d'études d'ensemble de sociétés comme le Rotary ou le Lions Club. C'est au-dessus.
C'est une ascèse personnelle.
C'est une ascèse. Et en plus, elle est vouée à des notions de parole. De parole donnée, de respect de la tradition. Combien de fois, quand on leur raconte l'histoire de ce fameux chevalier qui avait été fait prisonnier par Saladin, oui. qui demande à Saladin d'aller rechercher sa rançon et qui, n'ayant pas trouvé sa rançon, se rend à nouveau prisonnier chez Saladin, enfin quand même il est parti de la Palestine pour monter dans le nord, dans les Ardennes, et il est revenu. Les enfants n'arrivent pas à le comprendre. Mais quand on leur explique que la vie, que leur devenir, ce ne sera que la parole donnée, le respect de la parole donnée, le respect de la veuve, de l'orphelin, le respect de celui qui enseigne, parce que les parents font des sacrifices pour qu'ils puissent recevoir l'enseignement. Eh bien, tout ça, c'est le blason qui me permet et qui nous permet à mon équipe d'y arriver. Et là, je crois que pourquoi on se retrouve avec des garçons comme Jean-Marc ou comme Christian, c'est que nous avons cette même éthique. Ce même désir de vérité dans l'amour de Dieu, dans le respect de nous-mêmes et de notre parole. Et qu'on le veuille ou non, politiquement, les seuls qui soient dans cette lignée, eh bien, c'est le Front National. C'est tout.
Dans ce que vous dites, vous parlez de la parole. Quand on parle de parole, moi j'entends le verbe. Et je me dis qu'au fond, on appartient à une tradition qui est la tradition du verbe.
Bien sûr.
Du verbe créateur, du verbe incarné. Et d'une certaine manière, le blason, c'est le verbe incarné aussi. C'est une parole qui prend corps, qui se rend visible. De même que, on pourrait dire que l'Apocalypse ou les livres saints sont aussi une parole qui se rend visible. Et ce sont des blasons.
Ce sont des repères.
Ce sont des repères, oui, c'est ça.
Et dans cette époque déroutante, ce qui est important, il y a plusieurs demeures, mais il y a plusieurs chemins. Lequel les chemins, ils ont plein d'impasses, ils ont des voies de travers. Alors, lorsque vous trouvez ces symboles, bon, il faut apprendre à les lire aussi également, mais ça vous remet sur les rails. Et je trouve que ça, alors que actuellement, ce qui est important, c'est que tout le monde va à volo, au jour le jour. Et c'est là où j'écoutais ce que tu disais. Et c'est vrai que chez les enfants, qui sont quand même très sensibles à ça, si dès le départ, tu parlais de respect, tu parlais d'amour, c'est qu'il y a bien entendu le problème ultérieurement, c'est qu'ils sont tellement choqués par ce qu'ils voient chez les adultes autour d'eux, qu'ils voient, qu'ils se demandent. J'ai eu cette expansive. On nous parle de la parole, on nous parle de l'honneur. Et quand tu regardes, et puis ils grandissent, mais la vie, c'est le contraire. Alors là, ça peut créer également un choc.
Oui, mais le choc, on le sent, souvent on le sent, lorsque on arrive, parce que nous avons fait des manifestations dans des banlieues difficiles, où il y avait des petits polissons. Et les dames nous disaient...
Mignon, ça faisait faire plaisir à Jean-Pierre Poteau, Jean-Pierre Rondeau, qui a beaucoup fréquenté les petits polissons.
Le professeur nous disait, vous allez avoir une classe difficile, ils seront turbulents. Paradoxalement, dès qu'on attaquait les radiques, qu'on leur parlait du mystère des couleurs, parce que il faut Il ne faut pas que ce soit une science abrupte qui soit... Elle a déjà des termes un petit peu délicats, et ces termes, on peut les apprendre dans le temps. N'importe qui peut les apprendre, c'est pas grave, avec un bon dictionnaire, tout le monde peut arriver à faire de l'héraldique. Mais le mystère de ces couleurs qui s'assemblent, qui donnent de l'harmonie, qui donnent du mouvement, qui donnent des gestes. Parce qu'il y a une gestuelle dans le blason que l'on retrouve, par exemple, d'ailleurs on emploie même des termes, des scribes, couper, fendre, voilà. Donc ce sont des termes de tournoi. D'ailleurs, le terme de blason, ça vient de blazen, qui voulait dire claironner.
Ah oui. Alors encore le verbe.
Qui claironnait l'arrivée du chevalier dans la lice.
C'est ça.
Voilà. Et celui qui présentait le chevalier, c'était le héros d'armes.
Ouais.
Et les héros d'armes ont eu de véritables, j'allais dire, familles. Mais même avec des rois, il y a eu le roi de héros d'armes. Et ils avaient une puissance extraordinaire puisque ils étaient considérés comme des ambassadeurs. Ils étaient jamais touchés par les ennemis. Ils avaient le droit d'aller sur le camp des ennemis pour aller s'informer quelles étaient les armoiries d'un tel. Et par éthique, même s'ils avaient eu connaissance d'une stratégie qui était préparée pour le lendemain, ils ne disaient rien à leur propre armée. Alors, quand vous expliquez ça
aux enfants, ils sont
émerveillés, et c'est normal.
Il me vient une idée lumineuse.
Oui.
Régis,
oui.
Dans ta région,
oui.
Est-ce que tu as des contacts avec les renseignements généraux?
J'en ai eu beaucoup.
Bon. Oui. Essaie d'avoir les listes de tous les taggeurs du coin. Tu sais,
oui, et leur faire faire des
réactions. Non, qu'ils leur fait des cours et qu'ils nous taguent avec des blasons. On sera au moins, ça va être, on va trouver une formule. Voilà. Mais, et puis tu peux monter, on peut monter à travers les Lyonnaises, on monte à...
Quand j'ai fait mon bref séjour à Toulon, où j'ai cru que je pouvais devenir fonctionnaire municipal entre guillemets, bon, ce qui était vraiment pas ma carrière là, ça a été. Mais j'étais donc directeur de la communication pour le compte de Le Chevalier, et j'avais eu une idée parce que naturellement on était tagué, et la municipalité précédente avait monté une école de tag. On n'est jamais à l'abri d'une connerie avec ces gens-là. Donc, ils apprenaient aux jeunes des cités à faire des tags. Et j'avais dit, mais c'est quand même absolument incroyable, quand on pense que ces gens-là se réclament de la tradition musulmane et de la tradition arabe, ils ont la calligraphie, ils ont une calligraphie qui est la plus belle calligraphie qu'on puisse imaginer. J'ai dit donc, alors, tant qu'à faire une école, faisons une école où on va leur apprendre la calligraphie arabe. Au moins, ils feront pas ça sur les murs, ils feront ça dans des endroits choisis, et puis ils apprendront ce qui est beau. Et je me souviens que... Si, c'est beau, la calligraphie.
Non, je dis que vous allez perdre des...
Non. Vous savez, moi, je suis pas payé à l'auditeur, donc je dis ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est plus simple.
C'est beau, mais les blasons, c'est magnifique.
Ce que j'ai perdu, en tout cas, à l'époque, à Toulon, c'est l'adhésion de la quasi-totalité du conseil municipal.
C'est ce que je dis.
Qui m'a dit, mais vous êtes complètement toqué, mon vieux, voilà, bon. Et donc, ma proposition n'a pas eu de suite. Mais c'est exactement la proposition que Bertrand vient de faire, c'est évident que...
Les abonnés.
Et vous savez quelque chose qui nous a porté tort à l'héraldique, c'est lors de la Ligue d'Augsbourg en 1696, quand Louis XIV s'est vu suggérer par un certain Dozier de mettre un impôt sur les blasons. Alors ce monsieur Dozier a fait un travail remarquable, puisque grâce à lui, on a l'inventaire général de tous les blasons de France. Mais pour avoir des impôts, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il devait avoir des sbires avec lui, qui étaient totalement incompétents à l'héraldique. Et pour pouvoir prélever l'impôt dans des villages qui n'avaient pas de blason, il en leur a mis un d'office.
Oui.
Alors ça fait qu'on se trouve avec des blasons qui datent quand même de 1696. Et les gens du village regardent leur blason. Il est sur un fond quelconque, d'azur, de sable, avec une bande déchiquetée. Je vois dans notre communauté des communes, nous sommes 7 communes, parce qu'on habite en Cévennes, dans un tout petit village. Et bien sur les sept communes, il y en a 4 qui sont affublées de ces horribles blasons.
C'est des blasons fiscaux.
Alors, oui, c'est drôle.
Voilà, c'est des blasons fiscaux. Et alors ce qui est terrible, c'est qu'incontestablement, à cause de ça, il s'est perdu un engouement pour le blason.
Bien sûr.
Vous comprenez, ça, quand vous regardez le blason de votre village, que vous voyez deux tristes bandes qu'on est incapable de vous donner, c'est pas comme quand on voit le blason des Montmorency, oui, qui ont obtenu autant d'églettes que ceux qui ont gagné de victoire, ou celui de Dunois, où là, alors qu'il était bâtard d'Orléans, où toute la populace criait à mort la bande, qu'on lui enlève cette barre de bâtardise,
oui.
Parce qu'il ne la méritait plus avec tous les exploits qu'il avait fait.
Donc il méritait même plus d'être bâtard, c'est dur.
Alors que c'était un privilège. Voilà.
Nous avons des questions ou des réflexions d'auditeurs.
Dans l'île de Rhodes, chaque maison comportait le blason de chaque chevalier.
C'est exact.
Et puis le Stade français de rugby vient de se doter d'un nouveau maillot orné de fleurs de lys.
Bravo.
Vive le rugby.
Ça, c'est très bien.
Et quand votre invité fera-t-il des conférences sur Paris, notamment avec Paul-Georges Sansonetti?
Ah ben, Paul-Georges Sansonetti est un des piliers du centre.
Oui.
On a donné beaucoup de conférences, tant à Paris qu'à Carcassonne ou à Nice.
Et quelle est la prochaine?
La prochaine n'est pas évidente, parce que Paul-Georges donc s'est retiré à Saint-Paul-de-Vence. Il travaille beaucoup pour le cinéma actuellement et donne de moins en moins de conférences. Alors, il s'exprime souvent dans notre revue, Liber Mirabilis. Il a notamment une rubrique consacré au cinéma et au symbolisme dans le cinéma. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de s'abonner à la revue, hein, je n'ose à peine le dire. Mais donc, les auditeurs peuvent nous écrire de toute façon à Liber Mirabilis, l'île comme une île, puisque c'est une île, 11 000 Carcassonne, ou nous retrouver sur libermirabilis.com pour Internet. Vous aurez des possibilités pour avoir un numéro découverte ou vous abonner à la revue. Voilà. Et puis quand Paul-Georges pourra venir s'exprimer à Carcassonne ou à Paris, nous le ferons savoir.
Vous voulez bien répéter
Liber Mirabilis, l'île comme une île, 11 000 Carcassonne. Et le site internet, c'est libermirabilis.com, ou alors vous pouvez remplacer par Centre européen des mythes et légendes, puisque c'est la même maison, Lille, 11 000 Carcassonne. Voilà.
Oui, puis j'avais oublié de vous dire quelque chose.
Vous avez un musée.
Et voilà, c'est ça,
alors,
le musée.
Alors, il est où, ce musée?
Alors, il se trouve dans un petit village qui s'appelle Saint-Jean de Valérisque.
Saint-Jean de Valérisque.
C'est un petit village qui se trouve au nord d'Alès, dans les Cévennes. Et là, si vous voulez, ça a été un des grands bonheurs de notre vie, puisque j'ai fabriqué à peu près 1500 blasons, et il y en a 600 qui sont dans le blason, dans le musée, et qui ont permis de créer un emploi.
Ah oui.
Alors, bien sûr, nous avons été aidés par la mairie. Ça a commencé par un petit emploi jeune, et puis après, c'est devenu un emploi réel. Et il est devenu employé municipal.
À Saint-Jean-de-Valérisque.
Ah, il faut aller voir ce musée des blasons.
Et Bertrand, est-ce que vous restez à Paris quelques jours? Non, vous repartez. Bon, parce que nos amis de la librairie Duquesne Diffusion voulaient vous demander si vous voulez venir signer votre livre, mais
dans le micro.
Si vous repartez.
Je pars demain après-midi, oui.
Alors vous reviendrez pour ça.
Si j'avais su, oui, mais bon. Peux revenir, oui, je reviendrai.
Entendu. Alors, vous avez des annonces à faire.
J'avais donné une mauvaise adresse pour Cécilia Dem la semaine dernière. Donc son téléphone, c'est 05 49 41 81 75.
Cécilia Dem, c'est
05
les fleurs, bien entendu.
49 41 81 75. Serge Beckett, monsieur de Beckett, je bois tout de suite un apéro dans l'espoir que cela vous adoucisse la gorge.
C'est gentil.
Alors,
oui,
comme
dit Patrick, c'est moi qui fume, c'est toi qui tousse.
Je rappelle aux auditeurs qui désiraient une photo de Jean Ferré qu'il y en a une à la une du libre journal papier de Serge de Beketch.
Oui,
c'est... Et que Serge de Beketch se fera un plaisir de leur envoyer ce journal s'ils en font la demande contre un carnet de timbres à S2B, 4 place Franz Liszt, Paris 10e.
C'est la dernière photo de Jean en public, elle a été prise à la journée du livre. Je veux dire, c'est pas une photo...
la meilleure.
C'est pas une belle photo, mais c'est une photo qui montre ce que cet homme a souffert. Il faut dire les choses comme elles sont.
Jeudi 19 octobre, Rémi Fontaine signera le livre noir des évêques de France à Duquesne Diffusion de 12h à 18h. À l'hôtel de ville de Versailles, salle Montgolfier, 4 rue de Paris, Conférence sur la dernière guerre du Liban, ses secrets et ses alliances cachées, par Antoine-Joseph Assaf, le 20 octobre à 20h45, et Les chrétiens en pays d'islam, par M. Alaa Kader, auteur du livre Le vrai visage de l'islam, le 14 décembre à 20h45. Samedi prochain, 21 octobre, de 15h30 à 18h30, le général Legroignac dédicacera réplique aux diffamateurs de la France, 1940-1944, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Samedi 21 octobre, Laurent Glosy dédicacera le mystère de la race des géants à la lumière du créationnisme, toujours à Duquesne Diffusion, de 15h à 18h30.
Il est programmé en avril pour Carcassonne. Ah, voilà.
Association Les Amis du Sacré-Cœur, messe de Requiem pour la reine Marie-Antoinette, place de la Concorde, ce dimanche 22 octobre à 15h, célébré par l'abbé Néry, avec l'assistance du chœur Montjoie Saint-Denis.
C'est fini, on n'a plus d'antenne. Merci Victoria. Dimanche à Villepreux, on vous attend. D'ici là, bonne fin de semaine et à dans 15 jours, si Dieu veut. Que Dieu nous garde.